Allez, on y va. Donc on va commencer Bezrat Hashem, le chapitre 15. Chapitre 15, c'est Perek Tet Vav. Donc Perek Tet Vav, chapitre 15, dans le livre en français, c'est la page 204. Donc c'est un nouveau thème. Je crois que c'est un nouveau thème. Jusqu'à maintenant, installez-vous. Jusqu'à maintenant, dans les chapitres précédents, on a étudié la différence qu'il y avait entre le tzaddik, le racha et le benoni. D'accord ? Donc très rapidement, on a expliqué comment le tzaddik, c'est celui qui n'a plus de pulsions négatives. Le racha, c'est celui qui a des pulsions négatives, mais qui n'arrive pas à les contrôler. Enfin, en tout cas, qui ne veut pas les contrôler.
Merci.
Et le benoni, c'est une personne qui a des pulsions négatives, qui n'arrive pas à les réprimer, il n'arrive pas à les supprimer. Mais une chose qu'il arrive à faire, c'est qu'il arrive à ne pas y penser, ne pas en parler et ne pas agir. Ça veut dire que concrètement, au niveau de l'action, il est irréprochable. Il a peut-être des pulsions tordues, négatives, mais il arrive à se retenir. Donc, on s'est arrêté sur cette conclusion, ça fait 2 semaines. On avait expliqué que finalement, le Benoni, ça peut être monsieur tout le monde. N'importe quelle personne au monde, avec des efforts, beaucoup d'efforts, il peut décider de devenir Benoni, puisque le Benoni, on avait expliqué, il n'a pas le dégoût du mal. Alors, bien qu'on avait expliqué, on avait terminé avec ça la dernière fois, on a dit que quand même, on doit essayer de simuler. Vous vous rappelez, on avait donné l'exemple, par exemple, s'imaginer, qu'est-ce que c'est une femme, etc.
Que c'est le dégoût, etc.
Voilà. Ouais. Mais au final, on a dit que bon, tout ça, c'est des choses qu'on simule, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais au final, le Benoni, il a des pulsions qui ne partiront jamais. Bon, il peut essayer de simuler, et peut-être avec le temps, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner une seconde nature, mais concrètement, normalement, la nature ne partira pas, il aura toujours cette nature. Donc, c'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est monsieur tout le monde, que finalement, la seule qualité qu'il a, c'est quoi? C'est qu'au-delà de son caractère tordu et de ses pulsions négatives, il arrive quand même à se maîtriser. Ça veut dire que la clé du succès du Benoni, c'est la maîtrise. Il se maîtrise. Apprendre à se maîtriser. Exactement. Alors là, ce qu'on va expliquer maintenant, on va expliquer que dans les Benoni, il y a 2 catégories de Benoni. Et en vérité, dans ces 2 catégories de Benoni, ça va correspondre à 2 grandes catégories qu'il y a dans les hommes. Ça veut dire, il y a des gens que pour eux, le Yetzer Hara, c'est un combat constant. Tous les jours. Chaque minute. Tac. Il ne lâche pas. Il y a des gens pour qui c'est un peu moins un combat. Ils ont une nature plutôt calme. D'accord? Bon, c'est des gens plutôt calmes. Tant en temps, le Tsahara, il les attaque, on leur met des petits trucs, d'accord? Mais ils ont une nature qui est plutôt calme. Bon. Et donc, c'est des gens qu'en vérité, leur Tsahara, ils peuvent passer des mois sans que le Tsahara les ait dérangés. Des mois ou des semaines sans que le Tsahara les ait dérangés. Ce qu'on va expliquer, aujourd'hui, quelle est la différence entre les 2 catégories? Et quelles sont les 2 manières que chaque Benoni va avoir de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors encore une fois, c'est pas qu'il y a un tzadik et un Benoni. Les 2 sont des Benoni, ça veut dire que les 2 se font attaquer par leur Yetzer Hara. Mais la question c'est à quelle fréquence? À quelle fréquence? Et en vérité, quand on va avancer dans ce chapitre, on va comprendre que, même si au début on va voir qu'on parle de 2 catégories de personnes, en vérité, quand on va analyser un peu plus profondément, on va comprendre que c'est pas forcément 2 catégories de personnes, c'est 2 phases que chacun va passer dans sa vie. Il y a des phases dans lesquelles c'est un peu calme. Bon. Ça tourne, comme ils disent, d'accord? Ça roule. C'est-à-dire, voilà, t'es marié, t'as les enfants, ta, métro, boulot, dodo, synagogue, shabbat, ta. Bon, ça tourne. Voilà, ça tourne. Et il y a des périodes dans lesquelles on sent que chaque chose est un combat avec le Yetzer Hara. Il va expliquer quel est le but de chaque période. Bonsoir, ça t'arrange pas de laisser ouvert la porte?
Oui.
Ça, je vois qui c'est qui rentre. Parce que comme avec la sécurité, voilà, l'autre aussi, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait.
Bah déjà, il y a un exemple type, c'est l'été.
Oui.
La différence entre l'hiver et l'été.
Voilà, par exemple. Ah. C'est moi, je suis un peu enrhumé.
Ça, c'est clair.
Je me prends ton hasard.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir. Alors.
Page 205.
Donc, ce qu'on va expliquer maintenant, je t'arrête de dire, on va parler des 2 catégories de Benoni. D'accord? Et en vérité, chacun de nous peut avoir ces 2 catégories-là. Il y a le Benoni qui est en combat constant, et il y a le Benoni qui a des combats de temps en temps, mais que finalement il n'a pas de combat. Et ça, il va expliquer dans la suite qu'en vérité, c'est 2 types de nature qu'il y a chez les gens. Il y a des gens qui, par définition, sont des gens chauds, il y a des gens qui, par définition, sont des gens froids. Ça veut dire que, mais dans la vie, c'est comme ça, pas seulement par rapport à Averroth. C'est-à-dire que le bonhomme, avant de l'intéresser, il faut... Avant de le chauffer, il faut s'accrocher. Alors qu'il y en a des gens qui démarrent au quart de tour. Le problème, c'est que celui qui démarre au quart de tour, il tombe plus facilement. L'autre ne tombe pas. D'accord? Il va expliquer le travail qu'il y a à faire pour chacun, puisque celui qui ne tombe pas facilement va lui dire, toi, puisque tu tombes pas facilement, t'as un autre travail à faire. Puisque pour toi, tu dis, voilà, je suis religieux. Tu dis, mais attends, mais pour toi, c'est facile d'être religieux. Donc c'est pas ça ton travail. Et c'est là, aujourd'hui, on a été le thème de ce chapitre, c'est la notion de travail. C'est quoi un travail? Un travail, on appelle quelque chose qui est difficile. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu prends un enfant. Pour qui porter un kilo, c'est déjà compliqué. Tu vas lui demander de porter 2 kilos. Quand il va porter 2 kilos, pour lui, il a fait une avoda, il a fait un travail énorme. Moi, je vais porter 2 kilos maintenant. Je dis, regarde, pour lui, c'était un effort. Moi aussi, j'ai fait un effort, je vais porter 2 kilos. Qu'est-ce qu'on va me dire? On va dire, mais non, t'as rien porté, toi. 2 kilos, c'est rien du tout, c'est même pas ton poids. C'est rien du tout, 2 kilos. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je dis, oui, mais j'ai fait un travail. Dis, non, c'est pas ça, un travail. Un travail, c'est si, par exemple, pour toi, porter 30 kilos, c'est la norme. Quand tu vas porter 40 kilos, là, on pourra dire que t'as fait un travail. Et c'est ça le thème de ce chapitre. C'est que chacun en vérité, surtout après Rosh Hashanah, après Kippour, après Sukkot, que maintenant, ça y est, on est parti Bezrat Hashem maintenant sur une nouvelle rentrée. Chacun de nous, dans sa Avodat Hashem, son service de Dieu, il doit se poser la question, quelle est la difficulté? Qu'est-ce que j'appelle une difficulté? Parce que, on voit bien que quand on parle de Avodat Hashem, on parle de servir Hashem. Dans le mot Avodat, il y a le mot Aved. Aved en hébreu, ça veut dire quoi? C'est un esclave, un serviteur. Ça veut dire que, c'est pas seulement que je suis un employé de Dieu. Pour un employé, c'est pas forcément dur ce qu'il fait. Il y a les employés, c'est pas dur ce qu'ils font. C'est les employés bureaucratiques, il est là, il vient, il est là, il est payé. Bon. Mais on n'est pas les employés de Dieu. On est des Aved Hashem. On est des enfants de Dieu, mais on est aussi le serviteur de Dieu. Un serviteur, c'est quelqu'un qui n'est pas là à se tourner les pouces. Un serviteur, il est là pour être Aved, pour travailler, Avoda. Avoda, c'est quelque chose de dur, quelque chose de difficile. Alors on va voir maintenant que dans le prophète Malachi, il a dit comme ça. Regardez, c'est un peu dur ce qu'il va dire, mais en vérité, ça va tous nous concerner. Zeyuvan, avec ça, on va comprendre. Mashekatouf, ce qui est écrit dans Malachi, le prophète, c'est écrit. Veshavtem, vous ferez teshuva. Or item, et vous verrez. Ben tzadik, les rachats. La différence qu'il y a entre un tzadik et un rachat. Ben oved elokim, la hacher lo avado. Entre eux, une personne qui sert Dieu et une personne qui ne sert pas Dieu. A priori, c'est une répétition. Il a dit, vous verrez la différence qu'il y a entre un tzaddik et un rachat, entre une personne qui sert Dieu et une personne qui ne sert pas Dieu. Ben, j'ai envie de dire, s'il est tzaddik, c'est qu'il sert Dieu. S'il est rachat, c'est qu'il ne sert pas Dieu. Donc, pourquoi il répète 2 fois la même chose? En vérité, ce qu'on va expliquer, c'est que c'est pas du tout une répétition. Tu peux être tzaddik et ne pas servir Dieu. D'accord. Comment c'est possible? Bonsoir. Comment peut être tzaddik et ne pas servir Dieu? C'est là ce qu'il va expliquer. C'est quoi la différence, d'accord? C'est quoi la différence entre Oved Elokim Lachar Loravado? Excusez-moi, pardon. Oved, c'est un présent. Oved, on s'en fait un peu d'oulpan aussi, hein, c'est la mode en ce moment. Alors, Oved en hébreu, d'accord? Le verbe c'est Avad, serviteur, esclave. Avad, ça veut dire il a travaillé, d'accord? Eved, c'est un esclave. Roved, c'est il travaille maintenant. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit, vous ferez la différence entre celui qui travaille au présent et entre celui qui ne travaille pas. Ça veut dire que tu peux être une personne qui est extrêmement religieuse, mais que maintenant tu travailles plus. Tu te reposes sur tes lauriers. Tu as fait un travail très très dur, ça fait quelques années pour faire tes chouvas, et maintenant ça tourne. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, en 2014, c'est une avoda? Est-ce qu'on peut dire que maintenant tu travailles, c'est un effort? Non, je dis non, maintenant c'est plus un effort. Peut-être qu'il y a quelques années c'était un effort, maintenant c'est plus un effort. Qu'est-ce que dit le prophète? Le prophète, il dit, apprenez à faire la différence entre le tzaddik et le rachat. Bonsoir. Apprenez à faire la différence entre le tzaddik et le rachat. Apprenez à faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Puisque tu peux être un tzaddik et ne pas servir Dieu. Tu peux être un rachat et servir Dieu. Ah, comment c'est possible? On va voir. Ouais, parce que ça n'a rien à voir.
Si tu fais tous les jours la tef et Shabbat, tu sers Dieu.
Justement, je vais vous donner un exemple. C'est vraiment pour nous montrer que ça, c'est vraiment un nouveau thème à ce qu'on a étudié aujourd'hui. Ça veut dire que là, maintenant, on va tout chambouler ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était facile. Il y avait Tzadik, Racha, Benoni. C'était facile. Il y a celui qui n'a plus de pulsions, celui qui a des pulsions mais qui se laisse faire, celui qui a des pulsions et qui se retient et qui le maîtrise. Là, on va compliquer un peu les choses. On va dire, attends, c'est pas si simple que ça. La vie n'est pas si simple que ça, pulsion, pas pulsion. Il faut aussi analyser, est-ce que je me travaille pour Dieu? Est-ce que c'est un effort? Le but dans la vie, c'est écrit, d'accord? Shlomo HaMelech, il dit, Adam, l'Ermal, Yulad. L'homme a été créé pour se fatiguer. La question qu'on va poser après 120 ans, c'est pas combien t'as fait de mitzvot. C'est quel effort tu as fourni? On sera pas jugé aux chiffres. Combien de chiffres tu as fait? C'est pas ça. On sera jugé par rapport à l'effort. Ouais, ça veut dire.
Est lié à, au métier.
Évidemment. Mais ça veut dire que quand on voit, quand on va juger par rapport à l'effort, c'est possible qu'en vérité, pendant quelques mois, je fournis très peu d'efforts. Je fais beaucoup de mitzvot, mais je fournis très peu d'efforts parce que c'est devenu une routine. C'est bien d'être dans une routine. Au contraire, bonsoir. C'est une mitzvah, c'est bien d'être dans une routine. Mais d'un autre côté, on ne peut pas appeler une personne qui est dans une routine, on ne peut pas dire qu'il sert Dieu. On ne peut pas dire que c'est un service. C'est quelque chose de difficile. D'accord ? C'est quoi le sport ? C'est comme du sport. C'est quoi du sport ? Pourquoi on appelle du sport ? Comment ça marche ? Il faut que ça demande un effort. Si c'est une routine et que c'est plus un sport, on va dire bon, bah c'est bien pour ta santé, mais c'est pas un effort. Pour que ce soit du sport, il faut que ce soit un effort, il faut que tu transpires.
Donc le fait d'être venu ce soir, on a du mérite parce qu'on a fait un effort.
Pour certains, il y a certains pour qui c'est pas un effort.
Si ça fait 10 ans que tu viens au cours le lundi et que ça ne représente plus un effort,
il pleut, tu es fatigué.
Alors dans ce cas-là, si ça fait 10 ans que tu viens, que pour toi c'est une routine et que c'est naturel que tu viennes au même titre que tirer au travail, alors c'est un effort.
Alors justement, pour que ça devienne un effort, il faut stopper un certain moment les cours du lundi et reprendre après.
Essayez de ça.
Et comme ça, on fait l'effort.
Non, il faut motiver les cours du mardi.
C'est comme dans le sport, M. Benita. Est-ce que vous faites du sport des fois ?
J'en fais plus, j'en faisais beaucoup.
Bon, alors c'est comme dans le sport. Celui qui dit, pour que je sente que c'est un effort, je vais m'arrêter de faire du sport 2-3 semaines, comme ça après quand je vais recommencer, ça sera un effort. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu sens que c'est un effort, ça veut dire qu'il faut intensifier la cadence. Je vais pas freiner pour mieux faire du sport, ça marche pas comme ça.
Mais si je continue le lundi,
il faudra rajouter le cours du mardi.
Et, par exemple. Ça veut dire que ce que je suis en train de, ou bien essayer de réfléchir, de méditer au cours du lundi. Essayer de rajouter.
Ça veut dire quoi ?
Parce que l'homme a été créé pour se fatiguer.
Qu'est-ce que tu veux rajouter au cours du lundi ? Concrètement.
Concrètement, ça veut dire par exemple, tu vas écouter l'enregistrement, par exemple, tu vas prendre le livre chez toi à la maison, tu vas essayer de réviser, tu vas rajouter. Parce que l'homme a été créé pour se fatiguer. C'est une machine qui est faite pour se fatiguer. Et quand tu es en sous-régime, c'est mauvais. C'est très mauvais d'être en sous-régime. Un moteur n'est pas fait pour être en sous-régime. Alors tu peux le tenir, tu peux tenir comme ça pendant quelques temps, mais le moteur il casse. Pourtant tu dis, mais je suis en sous-régime, je le fais bosser moins que ce qu'il faut, c'est quoi le problème ? Ça marche pas comme ça, n'est-ce pas Serge ? 1000 tours minutes, tu l'ondes comme ça, tu le tues le moteur. D'accord ? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde qu'il y a un système que les choses doivent tourner à une certaine vitesse. Et quand tu sens qu'à un certain niveau, c'est fini, tu sens que ça y est, c'est fini, ça broute, ben il faut passer au suivant. Et il faut avancer. Sinon, ça sert à rien, on perd son temps. C'est ça ce qu'il te dit ici.
Il fait du 30 à l'heure sur l'autoroute.
Mais exactement. Donc, après, ça s'appelle quelque chose qui n'est pas Oved Elohim, qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il dit ici. Que dans le prophète Malachi, quand il a dit, vous ferez la différence entre le tzaddik, le rachat, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, c'est pas une répétition. Le tzaddik et le rachat, on connaît la différence. Mais on te dit maintenant, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, ça n'a rien à voir avec tzaddik et rachat. Tu peux avoir un tzaddik qui sert Dieu, un tzaddik qui ne sert pas Dieu. Ça veut dire quoi ? Un tzaddik qui sert Dieu, c'est quoi ? C'est une personne qui est en train de faire un effort pour faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, pour intensifier, pour augmenter la cadence. Là, on appelle ça qui sert Dieu.
Comment il peut faire un effort, le tzaddik ?
Il rajoute dans la quantité ou dans la qualité. Si tu rajoutes pas, c'est pas une avéra. Mais on n'appelle plus ça que tu sers à Kadosh Baruch Hu. T'es plus un esclave.
Si le tzaddik, il est plus dérangé par le yitzhara. Donc automatiquement, il est obligatoirement presque ou en totalité dans les 613 000.
Tout le monde a des challenges. C'est-à-dire que le challenge, c'est-à-dire que par exemple, s'il avait l'habitude d'étudier 10 heures par jour, il va étudier 10 heures 30 par jour. Chacun a son challenge. C'est-à-dire chacun a le point qu'il considère le point qu'il ne peut pas dépasser. Et quand il dépasse, ça s'appelle une avoda. Et ça va être vraiment le thème de ce chapitre.
Il n'y a pas de limite là.
Non.
Il n'y a pas de limite.
Après, on peut rajouter en quantité, on peut rajouter en qualité aussi. Rajouter en qualité, c'est-à-dire que j'étudie le même temps, mais j'essaie de faire un effort supplémentaire pour essayer de mieux vivre la chose. C'est bien ce que je faisais jusqu'à maintenant, mais j'essaie de mieux vivre. Je ne peux pas donner plus que ça. Alors bon, tu ne peux pas donner plus de temps, il n'y a pas de problème, mais je vais donner plus de qualité. Je vais essayer de mettre plus de mon énergie dedans. D'accord ? Plus approfondir. Dans le même temps, je vais approfondir en qualité. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une avoda. D'un autre côté, comme je viens de dire et qu'on va lire ensemble dans les mots, on peut servir Dieu pendant des années on peut faire les mitzvot pendant des années sans jamais servir Dieu. C'est-à-dire, c'est plus un effort, c'est une routine. Donc c'est bien, c'est une mitzvah, y a pas de problème, t'arriveras en haut, tu mettras le tapis rouge. Et Dieu, il dira, t'étais en sous-régime. La vérité, c'est dommage, on t'a mis un gros moteur, t'étais là, pour un sous-régime. C'est assourd, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Hein? Voilà, nous, on t'a Ferrari, ça. C'est assourd, on va mettre une Ferrari, il est là, roulé 30 à l'heure sur le périph. Mais ça se fait pas.
Ah bon,
c'est un sacrilège.
Tu l'as massé.
Voilà. Ok. Alors, chat est fraîche. Non, mais pourquoi je donne l'exemple d'un moteur ? C'est pas pour parler de voiture. C'est pour dire qu'il y a des gens qui pensent, ils disent, mais je comprends pas. Qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire, s'il peut rouler à 3500 tours minute, pourquoi quand je fais rouler à 1000 tours minute, ça l'abîme ? Qui peut le plus, peut le moins ? On dit non. S'il a été étudié pour rouler à 3500 tours minute, quand tu fais rouler moins, tu l'abîmes. C'est la même chose. L'homme a été créé pour se fatiguer. C'est-à-dire que l'homme a été créé pour être constamment en train de se fatiguer, en train de chercher à faire un effort. Quand on arrête de faire des efforts, c'est très mauvais. C'est pour ça que la Torah, bon, c'est ce que pense la Torah de la retraite. Enfin, la retraite. S'arrêter de travailler dans le rôle, d'accord, pour aller travailler dans le Kodesh. Pourquoi pas? Mais s'arrêter de travailler tout court, c'est très mauvais.
C'est la mort.
C'est la mort.
C'est la mort.
D'accord. C'est la mort. Parce qu'une personne n'est pas faite pour s'arrêter.
Mais il faut s'occuper.
Même les vacances, je prends du temps de repos pour mieux travailler après. C'est pas le contraire. Vous vous rappelez, on avait fait un cours avant les vacances, on avait dit que dans le monde goy, toute l'année il travaille pour être en vacances. Chez nous, le juif, c'est le contraire. C'est on prend des vacances pour bien travailler. Le but des vacances, c'est pour travailler après. Parce que le but, c'est le travail, c'est pas les vacances.
C'est pas 60 ans.
Parce que les vraies vacances, c'est pas ici, c'est en haut. C'est?
C'est pas 60 ans matériellement et 60 ans
spirituellement. Non, mais attends. Moi, si on vient me voir à 60 ans, on me dit, écoute, maintenant, on te donne la retraite de ton travail, tu peux aller étudier toute la journée. Je veux pas dire non. Hein. Mais sûr, je dirais pas non. Mais parce que je m'arrêterai pas de travailler. Au contraire. Je vais aller travailler. C'est quoi un travail? C'est faire ce que j'ai toujours aimé de faire. Tu comprends? Donc, c'est ça. Mais croire que je m'arrête de travailler, c'est très mauvais. C'est ça ce qu'il dit ici.
Il dit... Les voitures, quand elles sont là, ils sont en rodage.
Oui. Il n'y a pas de problème.
Bon, il y a un minimum.
Oui,
après, dès qu'elle est rodée,
là, on peut tirer dessus. Il n'y a pas de problème. Comme un moteur, quand il est froid, il ne faut pas trop tirer dessus. Il n'y a pas de problème. Okay. Mais après, une fois qu'il est chaud, il faut tirer dessus. Après, c'est bon, c'est pas bon sinon. Alors, chez Efresh, mais ça, c'est des principes mécaniques, physiques. Donc, ça veut dire que c'est la vie qui tourne comme ça. Hein, on donne un exemple de voiture, mais c'est les principes de physique, ça. C'est des principes qu'on peut appliquer sur le corps humain, sur toute chose qui existe dans le monde. Donc dans les mots, Shah Efresh ben Oved Elokim le Tzadik. Quelle est la différence entre celui qui sert Dieu et le Tzadik? Bonsoir, c'est quoi? Chez Oved ou Lashon Oved, on peut être Tzadik et ne pas être Oved Elokim. On peut être Tzadik et ne pas servir Dieu au présent. C'est plus un effort, c'est plus de l'esclavage. Comment on a expliqué, pardon? Parce que Oved, c'est un présent. Maintenant, il est en train de servir Dieu. Or, le Tzadik, avec le bagage qu'il a, toi, tu le vois, tu crois qu'il cartonne, mais peut-être que pour lui, c'est même plus un effort. Donc, il n'est pas en train de servir Dieu. Il fait des mitzvot, mais on peut pas dire qu'il est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le service? Le service, chez où, BMTA, Avoda? C'est quoi un travail? Un travail, c'est quand tu te bats contre quelque chose. C'est ça le concept d'un travail. Tout à l'heure, j'ai un exemple du sport. C'est quoi le sport? C'est quand je me bats contre quelque chose. Ça veut dire, par exemple, mon corps a envie de s'arrêter, envie de se reposer, et je me bats contre cette envie pour, d'accord, pour transpirer. C'est-à-dire, je me bats contre quelque chose. C'est ça un travail. Un travail, c'est quand tu te bats contre quelque chose pour avancer. Le tzadik, on peut pas dire qu'il se bat toujours. Alors que le benoni a la chance que la majorité du temps, il est en mode avoda. Il travaille. Ça veut dire quoi, il travaille? Shehi amil chamay ma yetzarara. Le travail, c'est la guerre avec le yetzarara. Je me bats à chaque fois pour repousser le yetzarara. Leid gaber alav, pour me renforcer sur lui, pour être plus fort que lui. Ou les garchom aïrtana, je fais des efforts pour le renvoyer de ma petite ville, c'est mon corps. Parce que le yitzhara, il veut constamment prendre le contrôle de mon corps. Et constamment, je le repousse. Chez le yitlabesh bevaré à gouf, je ne laisse pas prendre le contrôle des membres de mon corps. Je ne laisse pas prendre le contrôle de mon cerveau, de ma bouche, de mes oreilles, de ma main, de mes pieds. Je ne laisse pas prendre le contrôle. Et ça, il dit ici, chez ou behemet avoda ve'amal gadol. Ça, c'est un travail d'esclavage. C'est un travail très difficile, parce que c'est un travail, le Yetzara, il te lâche pas. Moins de petites erreurs que tu fais, moins de petits moments de relâche, pack, c'est fini, il te fait tomber. Ça, on peut dire, c'est une avoda. Leila Chembo, tamid. D'accord? Leila Chembo, tamid, de se battre constamment contre son Yetzara. Alors, je voudrais rajouter encore un autre point. Pour expliquer quelle est la notion de avoda, et pour expliquer comment en vérité le tzadik ne sait pas ce que c'est l'avoda. Je vous donne un exemple. Un exemple que ramène le Rabbi Rachab. Il dit comme ça. Il dit, imaginez un fils qui aime très fort son père et que son père lui demande un service. Mais le service, c'est pas facile. D'accord? Mais le fils, tellement il aime son père que bien sûr, il va courir pour faire le service. Ce service qu'on a demandé, c'était pas un service facile. Mais est-ce que le fils, d'après vous, va sentir la difficulté quand il est en train de faire le travail?
Non.
Il la sent pas, la difficulté. Est-ce qu'il se sent esclave quand il est en train de le faire?
Pas du tout.
Pourquoi il se sent pas esclave? Parce qu'il est motivé, parce qu'il a envie de le faire. C'est pour ça que pour le tzaddik, même s'il travaille très dur, mais comme le tzaddik se sent comme un fils auprès de son père, c'est très difficile pour lui de sentir que c'est un effort. Parce que même s'il fournit un effort, il le sent pas comme un effort. Il sent comme quelque chose de naturel, parce qu'il kiffe, il a envie de le faire. À partir de quand on peut dire que c'est comme une avoda, comme un travail, comme un esclavage? C'est quand c'est quelque chose qui est difficile, que tu n'as pas envie de faire, que tu te bats pour le faire bien que tu n'as pas envie de le faire. Vous comprenez que le tzaddik, c'est pratiquement impossible chez lui. Donc le Bédoni a une qualité que le Tzadik ne pourra pratiquement jamais avoir. Pratiquement jamais. Parce que le Bédoni, il a cette chance que lui, il peut être Oved Elohim. Quand il va arriver en haut, après 120 ans, on pourra dire, lui, il a servi Dieu comme un esclave. Ce qui ne sera pas le cas pour un tzadik. C'est-à-dire, il a fait du chiffre, mais qui fait ce qu'il faisait? Quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait, c'est pas de l'esclavage. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, voilà, on parle entre hommes, d'accord? On va aller au travail. Quand tu sens que ça marche bien, que tu gagnes bien, d'accord? Est-ce qu'on peut dire que le travail, c'est de l'esclavage? Est-ce que tu te sens esclave quand tu es au travail?
Bah oui.
Pas du tout. Si tu kiffes ton travail et que, d'accord, tu te sens pas esclave du tout. Pourtant, tu es esclave du travail parce que tu vas commencer très tôt, tu vas finir très tard. Mais est-ce que tu te sens esclave? Non, parce que tu kiffes. À partir de quel moment je vais me sentir esclave du travail? C'est quand ça marche pas comme j'aurais voulu, d'accord? Quand j'ai des contraintes, quand j'ai un employeur qui me casse les pieds, d'accord? Que c'est compliqué et que là, je peux dire, ah, ce travail, c'est un esclavage. Mais vous comprenez que quand c'est quelqu'un qui est patron, quand c'est quelqu'un qui gagne bien, il sait pas ce que c'est l'esclavage. Ben, imaginez que le Tzadik, c'est comme un patron et qu'il gagne. Chaque fois qu'il joue, ça gagne, ça marche. Il sent pas ça comme un esclavage, même s'il travaille très dur, même, c'est facile pour lui. Il kiffe ce qu'il fait. Le Benoni, lui, comme c'est difficile parce qu'il a pas toujours envie, et il est comme nous, hein, c'est des gens comme nous, ça veut dire que des fois t'as envie, des fois t'as pas envie. Chaque fois qu'il se bat avec son Yitzhara, chaque fois qu'il ne se laisse pas faire, que le Yitzhara lui met une pensée tordue dans la tête et pas qu'il repousse, chaque fois il repousse. À la fin, t'en as marre. Et ben, chaque fois qu'il repousse, c'est une ravoda. Il a cassé son yitzhara, alors qu'il n'avait pas forcément envie de le faire. Le yitzhara, il lui dit, ça va? C'est un combat. V'aïnou a Benoni. D'accord? Ça, c'est le Benoni. Le Benoni, il est roved. Roved en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sert Dieu au présent. Alors que le tzadik est appelé reved. D'accord? Donc, rappelez-vous en hébreu. Roved, c'est un présent. Il sert Dieu. D'accord, c'est un service, c'est un esclavage au présent. Reved, d'accord, c'est un passé. C'est-à-dire, c'est un titre qu'on a donné à une personne. On dit celui-là, c'est le serviteur de Dieu. Mais c'est un passé. C'est-à-dire que peut-être qu'il a fourni des efforts avant, mais maintenant, il a gagné un titre qu'on l'appelle le serviteur de Dieu. Mais on peut pas dire que maintenant, il est en train de servir Dieu avec beaucoup d'efforts. C'est pas un effort pour lui. Donc, vous voyez une qualité qu'a le Benoni que le Tzadik n'a pas. Et ça, c'est un scoop en vérité, ça, parce que jusqu'à maintenant, la star du Tania, pour l'instant, enfin, bien sûr, on parlait beaucoup du Benoni, mais jusqu'à maintenant, quand on voyait le Tzadik, on se disait, le Tzadik, c'est la star, celui-là. Et le Tzadik, il arrive à tuer ses pulsions, il n'a plus de pulsions. Alors que là, maintenant, à partir du chapitre 15, on comprend que le Tzadik n'a pas la même qualité que le Benoni. Parce que, puisque l'homme a été créé pour se fatiguer, et que, alors que le Tzadik ne se fatigue pas, ben, peut-être, et c'est certainement la réalité comme ça, qu'une personne comme nous a plus de chances d'accomplir le but pour lequel il a été créé sur Terre, d'accord? Qu'un tzadik. Parce que le tzadik, il a été créé pour se fatiguer, mais est-ce qu'il se fatigue? Non. Alors que moi, j'ai été créé pour me fatiguer, je me fatigue. Donc voilà quelque chose que je fais, que le tzadik ne fait pas forcément.
Il a moins de mérite, en fait.
On peut dire ça comme ça. C'est pas que moins de mérite, c'est différent. D'accord? Sur ça, tu peux dire qu'il a moins de mérite, exactement. Parce qu'il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Pourtant, on l'appelle le serviteur de Dieu. Je donne un exemple. Par exemple, on dit que Avraham, Avinu, on l'appelle Eved à Kadosh Baruch Hu. On l'appelle l'esclave d'Hachem. Mais c'est un titre qu'on lui a donné. On ne dit pas que maintenant il sert Dieu. On dit que c'est un titre, c'est un esclave de Dieu, c'est un passé. Alors que le Benoni, on ne dit pas Eved, on dit Roved. Maintenant il sert à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est un combat de tous les jours qui ne s'arrête pas. Aval Hatzadik, comme on vient de dire, Nikra Eved Hashem. Le Tzadik est appelé le serviteur d'Hachem. Où on a vu cette notion de Eved Hashem? On a vu dans la parasha Vezot HaBeracha, qu'on a lu la semaine dernière. D'accord? Dans la parasha Vezot HaBeracha, quand on parle de Moshe, on dit que Moshe était Eved Hashem. On parle de Yoshua, Eved aussi. On dit Eved, la notion de Eved. Mais Eved, c'est un passé. C'est-à-dire, c'est un passé, c'est un titre qu'on a donné à une personne. C'est pas un présent. C'est pas que maintenant il se bat avec Akadosh Baruch Hu.
C'est quand même un terme réducteur quand on le met à la personne de Moshe Rabbeinu vis-à-vis de Hashem. Et justement, dans la paracha, il dit quand il devait mourir et il devait passer le flambeau à
Yoshua
Ben Nun. Dieu s'adresse à lui, il lui dit, voilà, Moshe, Eved Hashem, il va partir, etc.
Oui.
Et je trouve que ce terme-là, pour Moshe, est un terme réducteur.
Pourquoi, au contraire? C'est magnifique de dire pour quelqu'un qu'il est le serviteur d'Hachem. C'est énorme.
Le roi des rois, des rois.
Mais il a dit Eved au passé.
Je vais vous expliquer. La particularité, et en fait, il faudrait qu'on fasse un cours sur ça une fois. Vous savez, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, la relation qu'il y a entre le juif et Akadosh Baruch Hu, des fois on est comparé à un fils avec son père, et des fois on est comparé à un serviteur, même un esclave, par rapport à son maître. Il y a les deux, dans les textes, il y a les deux. Et en fait, c'est deux notions qui sont complètement différentes. D'accord ? Parce que la relation qu'il y a entre un fils et un père, c'est une relation d'amour. Même si au début, quand l'enfant est enfant, bon, il y a une relation peut-être un peu plus de crainte, mais à terme, le but de cette relation, c'est une relation d'amour, une relation affective. Alors que la relation qu'il y a entre un esclave et un maître, c'est une relation de soumission. Et quelqu'un de l'envergure de Moshe Rabbeinu, d'accord, qui n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grande proximité avec Akadosh Baruch Hu, avec cette telle proximité, arriver à avoir une soumission, c'est très compliqué. Parce que normalement, plus il y a une proximité, et moins il y a de soumission. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est vrai, mais il est quand même présenté.
Ça veut dire, par exemple, d'accord, tu peux avoir le plus grand roi de la terre. Est-ce que sa femme est soumise à lui? Sa femme, ça reste sa femme. C'est-à-dire, plus tu es proche de quelqu'un, et plus tu as du mal à avoir la soumission. L'amour, c'est facile à avoir. Eh ben oui. Mais c'est difficile à être soumis à quelqu'un que tu connais très très bien. Ah, plus oui. Tu le connais, plus tu es proche, et plus c'est difficile à être soumis. Ben d'où les conflits entre proche, les hommes et les femmes.
Mais là, il était très proche, Moshe Rabbeinu de.
Eh ben, ça, c'est le chidouche. Le chidouche, la nouveauté de Moshe Rabbeinu. C'est bien qu'il était. Il était. Très proche d'Akadosh Baruch Hu, il a réussi quand même à être soumis à Dieu et d'être comme un esclave. Mais Moshe Rabbeinu n'aura jamais la qualité d'un Benoni, qui est que le Benoni se bat contre son Yetzara au jour le jour. Ça, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas ce que c'est, parce qu'il ne sait pas ce qu'il se bat contre le Yetzara. Il sait ce que c'est être soumis à Dieu, mais il ne sait pas ce que ça veut dire avoir un Yetzara qui te casse les pieds sur chaque seconde de ta vie, et que chaque fois il faut se battre. Ça, un tzaddik, c'est pas ce que c'est. C'est pas.
Hein? Finalement, c'est pas
c'est bien sûr, c'est normal. Mais c'est une qualité qu'on a. Parce que être Oved Elohim au présent, servir Dieu au présent.
Ça m'a un peu choqué.
C'est normal que
le terme, j'ai trouvé que le terme
on fait l'interprétation. Oui, on a aujourd'hui vis-à-vis de. Pourquoi il a tué son
amour? Oui, mais quand même.
C'est parce qu'il a complicité à Kadosh Baruch Hu. Pas faire autrement que.
Tu as raison. Mais c'est pas forcément après qu'il y a une relation de soumission. Non, il y a une relation.
Tu prends l'exemple entre un homme et une femme, mais en fait, en réalité, l'exemple que tu vas poser, il ne peut pas être transposable.
Okay.
Parce qu'en réalité, tu parles de Moshe, mais Moshe, quand il te dit, quand la Torah te dit qu'il était proche, il n'y a pas un autre homme qui a été aussi proche que,
oui.
que Moshe avec Hachem, ça veut dire quoi proche? Ça veut dire qu'il a eu la conscience au présent de savoir exactement qui c'était Hachem.
Tu as raison.
Moins qui c'était Hachem.
Mais
tu as cette conscience-là, c'est comme si tu avais comme si tu avais un pic à droite, à gauche, devant et derrière, au-dessus et en bas, tu sais que tu ne peux pas prendre une seule fois le couloir des bus.
D'accord.
Même pas y penser.
Je vais reprendre l'exemple. J'entends ta question, j'ai compris ta question. Je vais reprendre l'exemple.
C'est vrai que c'est facile comme ça. Mais...
Je vais reprendre l'exemple du fils. D'accord ? Du fils qui va rendre service à son père. Oui ? Parce que le tzaddik, on a dit, lui, la relation qu'il a avec Dieu, c'est que c'est comme un fils. Quand un fils va écouter ce que son père lui dit, est-ce qu'il va écouter par soumission ? Où est-ce qu'il va écouter parce qu'il sait que c'est son père et puisque son père, certainement, il lui veut du bien.
Mais quand son fils...
Non, je veux une question. Écoute ma question. Ça veut dire, essaie de réfléchir, toi, par rapport à ton père ou ton fils par rapport à toi.
Mais à
pourquoi il va t'écouter? Non, voilà, toi par rapport à ton père. Toi par rapport à ton père.
Non, maintenant que
je... Oui, maintenant.
Mais moi, j'ai pas la vue que... J'ai pas la vue non. que moi, que lui, là...
Parle pas de Moshe Rabbeinu, je parle de toi maintenant.
Non, mais je sais.
Parce que toi,
j'ai pas la vue.
La relation que Moshe Rabbeinu a avec Dieu est comme un fils avec son père. C'est une relation de proximité, d'accord, d'affection, d'amour. Je vais écouter ce que mon père me dit, parce que je sais qu'il veut mon bien, c'est mon père. Mais est-ce que je peux dire que j'ai la soumission? C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir la soumission
non,
à son père.
Justement, on est cool avec
ça. Parce que, non, même si tu le respectes, comme tu es très proche, c'est pas facile de se sentir soumis. Parce que tu es très proche de lui. Donc réussir à développer un sentiment de soumission et que même quand tu comprends pas, même quand tu n'es pas d'accord, même quand tu penses qu'il se plante, garder la soumission, se taire, c'est un effort particulier. C'est dur parce que t'as une proximité. Si t'as pas de proximité, t'écoutes, t'es bon, tu te tais. Mais quand t'es proche avec une personne, c'est dur.
Mais la soumission...
Pourquoi je dis ça? Pour dire que être quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, qui est quelqu'un qui discute avec Dieu et que Dieu l'écoute, et être capable de se taire, de baisser la tête et de dire on avance, c'est fort. Mais c'est pas un combat. On peut pas appeler ça un combat. C'est ce que je veux dire ici. C'est un Eved, c'est un esclave de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il est soumis à Dieu. Ça veut dire qu'il apprend à être soumis à Dieu même quand il comprend pas. Mais on peut pas appeler ça un esclavage. On peut pas appeler ça un travail, un asservissement. C'est pas un asservissement, il kiffe ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis d'accord avec toi, il y a aucun problème. La seule chose c'est, pourquoi il fait ça? Parce que, toi tu parles d'un fils avec un père.
Oui, Moshe c'est comme un fils avec son père.
Dans le terme, un homme avec un autre homme.
Oui.
Mais là, on ne parle pas de la même relation. On parle de Akadosh Baruch Hu avec un autre homme. Autrement dit, si tu entends un message d'Akadosh Baruch Hu qui te dit quelque chose qui, toi, te paraît illogique
oui.
et complètement, sur le moment, à l'instant, en contradiction avec les événements que tu peux comprendre et apprécier, si tu n'écoutes pas et que tu as cette proximité-là, C'est que tu arrives.
Non, mais c'est-à-dire, après, comme tu sais que tu es proche de Dieu et que Dieu tient compte de ton point de vue, tu peux te permettre de discuter. Oui. D'accord ? Et quand tu te tais et tu dis rien, c'est fort. Tu comprends ? C'est une grande force. Mais, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est un combat. Donc, dans les mots. Que Moshem Chacham, tu as le livre ?
Oui.
Alors, d'accord. Il y a des livres encore, tenez. C'est le tome 2, ça, d'accord. Tiens. Pardon. Non, mais je n'utilise pas. Alors, Kemo Shem Chacham Omeler, Shekvar Naasa Chacham Omeler. Je vous donne un exemple. Ici, il donne un exemple. Il dit, quand on dit que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, on l'appelle Eved Hashem, le serviteur de Dieu. Il dit, ça ne veut pas dire que maintenant il sert Dieu, que c'est un combat pour lui. On l'appelle comme ça parce qu'il l'a déjà fait. Il donne un exemple très simple. Il dit, quand par exemple une personne, on l'appelle un roi, Meler, ça veut dire qu'il règne déjà. Quand j'appelle quelqu'un Chacham, ça veut dire qu'il est déjà intelligent. La même manière, quand tu appelles un tzaddik Eved, ça veut dire qu'il a déjà servi Dieu. C'est déjà fait. Par contre, le Benoni, on l'appelle pas Eved, on l'appelle Roved. Ça veut dire qu'il est constamment en train de régénérer. Et c'est ça ce qui est très dur chez le Benoni. Je voudrais m'arrêter un peu dessus. Il a donné l'exemple ici d'un Meler, d'un roi par exemple. Bon, le roi, pour devenir roi, c'est pas facile. Quand il va devenir roi, il va devoir s'imposer, etc. Ça va durer quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais une fois qu'il l'a fait, c'est fait. Ça veut dire qu'après, dans 15 ans, dans 20 ans, il dit, bon, ben maintenant, c'est fait, ça y est, d'accord, c'est fini, j'ai établi mon autorité, je suis roi. Imaginez, d'accord, que le Benoni, c'est nous, en vérité, chaque jour, tu dois réétablir ton autorité. Et chaque fois, pac, on contredit ton autorité, et tu dois réétablir, on contredit, et tu dois réétablir, et tu t'en peux plus à la fin. Tu dis, mais attends, ça veut dire que constamment, tu es en train d'essayer de devenir esclave de Dieu. Et constamment, le Yetzara, il t'attaque, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça veut dire que le Benoni ne devient jamais à Eved Hashem. Jamais il peut dire, ah, maintenant j'ai le titre, je suis esclave de Dieu. Parce que dès qu'il dit ça, pas que le tsar lui dit, ah, pas du tout, t'es esclave à moi aussi, c'est moi qui vais dire ce que tu dois faire. Donc il est constamment en train d'essayer de devenir l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la qualité que le Benoni, qui est en train de se battre avec son Yetzara. Donc, karzé, dans les mots, kvar avad vegamar le gabra avodat amitra maimara, at ki va egar shu va yelechlo, velibo halal vekirbo. Le tzadik ne sait pas ce que c'est un combat. Il a déjà fait ce combat. Et pour lui, maintenant, c'est terminé. Vous savez ce qu'on dit? Le roi David, il dit dans Tehilim, dans le psaume 34, il dit, mon cœur est vide à l'intérieur. La Gemara dit, c'est-à-dire quoi, mon cœur est vide? Ça veut dire quoi, qu'il n'a pas de cœur? C'est vrai qu'il dit que son cœur est vide. La Gemara dit, ça veut dire que dans le cœur, quand il parlait du cœur, il voulait parler de son Yetzara. Et quand il dit que son cœur est vide, ça veut dire qu'il a tué son Yetzara. Ça veut dire que là, maintenant, le roi David, on peut l'appeler, c'est un esclave de Dieu. Ça y est, il a tué son Yetzara. C'est du passé, c'est déjà acquis. Mais nous, comme on n'est pas au niveau du roi David et que nous, notre Yetzara, il est toujours là, donc on t'appellera toujours Oved. T'es toujours en train de te battre. Toujours, chaque jour de ta vie, t'es en train de te battre. Et c'est ça ce que le prophète Malachi venait voir. Le prophète Malachi, quand il parlait au peuple, il leur disait, apprenez à faire la différence entre le tzaddik et le rachat, et apprenez à faire la différence entre celui qui sert Dieu au présent et celui qui ne le sert plus parce que c'est déjà fait. Et donc, en d'autres termes, apprenez à apprécier la qualité du travail que vous faites, du fait que vous vous battez tous les jours contre votre Yetzara. Ne croyez pas que vous êtes des lésés, que vous êtes des perdants, que vous êtes des ratés. Tu dis, regarde le tzaddik, lui, il a gagné, lui, il a réussi, moi, je suis un raté, moi, c'est fini, je vois rien. Tu dis, non. Toi, tu as quelque chose que le tzaddik n'a pas, que le tzaddik ne pourra jamais avoir. C'est que toi, tu es Oved Elohim. Toi, tu sers à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu sers quotidiennement à Kadosh Baruch Hu. Oui.
Juste pas d'accord pour le tzaddik, parce que nous, effectivement, on a le yetzara de faire le bien ou faire le mal. Mais le tzaddik, il a quand même le yetzara de faire le bien ou faire le mieux. Donc il a toujours une, entre guillemets, il n'a pas la même épreuve que nous, mais il a quand même une épreuve au quotidien. Donc il est quand même Oved au présent.
Tu as raison, mais le problème, il y a un seul problème avec ça. C'est que le tzaddik, comme c'est considéré comme un fils envers son père, et que le fils tous les jours il rend le même service à son père, donc tous les jours, par exemple, son père lui dit, amène-moi un repas. Donc tous les jours, il va essayer d'amener un repas encore mieux et encore mieux. Et ça va être un effort. Mais c'est pas un effort qui est difficile. C'est un effort qu'il a un plaisir à le faire. Donc, on peut pas passer au Oved.
Ouais. Il a quand même l'effort, mais c'est peut-être pas la
difficulté. Il a un effort, mais c'est pas difficile. Okay. L'effort et la difficulté sont deux notions différentes. L'effort, c'est quelque chose de physique qu'on peut quantifier. Mais la difficulté, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le physique. C'est dans ma tête. C'est moi qui décide ce qui est difficile ou ce qui est pas difficile. Je vais décider ce qui est difficile ou pas difficile par rapport à l'envie que j'ai de le faire. Le tzaddik a toujours envie de le faire. C'est rare qu'un tzaddik n'a pas envie de faire. Donc, il n'est pas Oved Elohim. Le Benoni n'a pas envie de le faire. Et il se bat chaque fois pour essayer d'avoir envie. Donc, il est Oved Elohim. Là, maintenant, on va continuer avec le Benoni. Donc là, et il va expliquer que même dans les Benoni, on va retrouver ces deux catégories. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on a expliqué que c'est quoi la différence. Il y a le Benoni et le Tzadik. Le Benoni sert Dieu au présent, c'est un combat. Le Tzadik ne le sert plus, parce que pour lui, c'est déjà un acquis. Maintenant, ce qu'il va expliquer, c'est que même dans les Benoni eux-mêmes, dans le Benoni lui-même, il y a deux catégories. Il y a un Benoni qui sert Dieu et un Benoni qui ne sert pas Dieu. Ça veut dire quoi? On va imaginer deux personnes. Il y a une personne qui est née dans une famille religieuse, dans une famille dans laquelle on a accompli la Torah et les mitzvot, et que pour lui, ça n'a jamais été une option de ne pas faire Shabbat. Ça n'existe pas. Ça veut dire que quand tu... Même pas son Yitzhara, même pas il va essayer de lui mettre dans la tête, de lui dire qu'est-ce que tu penses de Shabbat si on ne fait pas Shabbat. Ça ne marche pas, ça ne rentre pas. D'accord? C'est comme s'il lui dit, le Yitzhara, il lui dit, arrête de manger. Je vais arrêter de manger, c'est normal que je mange. Alors, de la même manière, faire Shabbat, pour lui, c'est comme manger, boire, dormir. C'est inconcevable. Bon. Donc cette personne-là, il est dans une famille religieuse dans laquelle on étudie la Torah. Alors certes, il a sa marge d'effort, mais finalement, sa marge d'effort est sur des choses qui sont très raffinées. Ça veut dire combien de temps il va étudier la Torah, il va faire attention à ce qui est, à comment il va regarder l'autre. Mais c'est des nuances qui sont très très fines. Alors d'un autre côté, tu vas avoir une personne qui n'a pas eu cette chance de naître dans une famille religieuse, ou bien qui est née avec un caractère qui n'est pas facile, comme ça peut arriver à beaucoup d'entre nous, des choses sur lesquelles c'est difficile, et que toute sa vie, ça va être difficile. La Gemara nous dit qu'il y a des gens qui ont une nature, que quand ils s'asseyent devant un livre, ils peuvent rester 15 heures devant un livre, ça ne les dérange pas. Il y a des gens comme ça, ce qu'on appelle dans la Gemara, l'opacique pour même dire ça. C'est des gens qui ne s'arrêtent pas à l'étudier. C'est-à-dire, c'est des gens, d'accord? C'est, on dit que, enfin, la Yeshiva, on dit comme ça, on dit, il y a des gens qui ont des pics dans les fesses, comme ça, on dit. Il y a quelqu'un, il s'assoit, 5 minutes plus tard, pop, il est là, il tient pas en place, il doit se lever. Mais t'en as, il peut être là, d'accord? En yiddish, ils appellent ça zitzfleisch. Ça veut dire, ils ont une chair qui est faite pour s'asseoir. Et le bonhomme, il peut rester 15 heures, ça le dérange pas. Toi, tu vois, c'est, mais comment il fait celui-là? Et ça, c'est des natures. Donc là, ce qu'il va expliquer, c'est que même dans les Benoni, bien que le Benoni, par définition, est celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, et donc c'est un effort, mais il y a effort et il y a effort. Il y a quelqu'un pour qui c'est un très très grand effort, et il y a quelqu'un pour qui, bon, c'est un effort, mais c'est pas un grand effort. D'accord? Le Tzadik n'a pas du tout d'effort, c'est un kiff. Bon, le Tzadik, il est hors jeu, d'accord? Il est hors piste. Nous, on a des efforts, mais il y a effort et il y a effort. On peut donner un exemple, d'accord? Pour simplifier la chose. On peut donner l'exemple d'une personne qui a déjà fait teshuvah depuis quelques années, et une personne qui est en train de faire teshuvah, et qui fait un effort pour rajouter une mitzvah. Celui qui a déjà fait teshuvah, que pour lui ça fait déjà quelques années, on peut pas dire que c'est un effort. Quelqu'un, ça fait déjà, par exemple, 10 ans qu'il fait Shabbat. C'était dur au début, mais maintenant il fait Shabbat depuis 10 ans. Est-ce qu'on peut dire que pour lui c'est un effort de faire Shabbat? Non, c'est plus un effort. C'est fini. Mais alors, c'est vrai que des fois, de temps en temps, il y a une grosse affaire, il y a un client qu'il a pu rencontrer, qui peut se dire, bon, peut-être, mais bon, c'est même pas, c'est fini, c'est un acquis, c'est fini, ça bouge plus, c'est vrai, on fait Shabbat. Donc, on peut plus vraiment dire que il est Oved Elohim. Et là, en vérité, le but de ce cours ici, qui va expliquer, c'est que chacun de nous doit chercher quels sont les points qui me sont difficiles dans ma vie. Ça veut dire pas quelles sont les choses que j'ai acquis. Ça, ce que j'ai acquis, j'ai acquis. Je dois me poser la question, quelles sont les mitzvot qui me viennent difficilement? Et ma résolution pour la nouvelle année, par exemple, je dois dire que je dois essayer de prendre une mitzvah des mitzvahs qui sont difficiles et essayer de la commencer. Une fois par semaine, une fois par mois, pas de problème, d'accord? Mais je prends quelque chose qui est difficile et là, je vais faire une avoda, je vais faire une milchama. Vous savez ce que c'est milchama en hébreu?
La guerre.
Je vais faire la guerre avec mon yitzhara. Quand tu sens que tu as une guerre, ça veut dire qu'il y a une prise. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand tu sens qu'il n'y a pas de guerre, c'est que c'est pas bon. C'est la guerre, d'accord? C'est-à-dire, en vérité, dans ce chapitre, il t'encourage à faire la guerre avec ton Yitzhara. Il te dit, s'il n'y a pas de guerre, c'est que c'est pas bon. Toi, tu peux dire ça, eh ben, au Hachem, je suis religieux, qu'est-ce qui me cherche le problème? On a la paix, shalom, on a le shalom, qu'est-ce que tu vas chercher la guerre? Il te dit, avec le Yitzhara, quand il n'y a pas de guerre, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il t'a endormi. Il faut avoir une guerre, ça doit être constamment une guerre. Une guerre dans le sens qu'on doit toujours chercher à rajouter quelque chose. Dès qu'il n'y a pas de guerre, c'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est comme ça. Alors bon, il y a des gens qui aiment pas ça. Il y a des gens qui disent, c'est, je suis religieux, laisse-moi tranquille. Non, ça marche pas comme ça avec le tsar. Il faut la guerre. Il faut être constamment en guerre. Donc, dans les mots. Alors, dans le Benoni, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce qu'on est en train de dire?
Peut-être qu'il est mort à ce moment-là.
Non, je vous le souhaite, mais bon, je pense pas. Si vous faites partie de 99,9999% des gens, le tsar, il est pas mort. Seulement, le tsar, il vous a endormi. Ça veut dire qu'il t'a dit, suffis-toi de tes acquis, et c'est très bien ce que tu fais.
Eh ben, c'est bien, s'il est endormi. Il m'a foutu la paix.
Non, c'est vous qui êtes endormi, c'est pas lui.
Monsieur Benita, je reprends l'exemple du sport. D'accord? Quand est-ce que vous sentez que vous faites quelque chose? C'est quand vous sentez qu'il y a un effort, quand vous sentez qu'il y a une difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, c'est qu'il n'y a rien. Tu dis, mais voilà, j'ai couru, j'ai marché. T'as pas de difficulté, t'as rien fait. Quand tu commences à sentir que dans les mollets, ça commence à faire mal, d'accord? Là, ça veut dire que dès qu'il y a une prise, c'est qu'il y a quelque chose. Quand tu sens une difficulté, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu sais, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien. C'est pas que tu fais rien. Bon, tu fais des mitzvot, on te récompensera pour ça. Mais t'as pas bossé. C'est pas un travail. Comme dans les affaires. Quand t'as une routine, c'est pas bon. Il faut que tu sentes que tu dépasses, que tu te dépasses. On peut rester des années comme ça. Vous savez, il y a des gens, ils ont une idée, ils ont lancé l'idée, ils peuvent répondre pendant des années, ils sont là constamment à se reposer sur leur laurier. Et ils gagnent leur vie, il n'y a pas de problème. C'est pas une avoda, ça. Avoda, il faut que tu sentes que c'est dur. Il faut que tu sentes qu'il y a un effort. C'est un conseil dans le business que je vous donne. Vous êtes dans la retraite, mais. Mais il faut constamment se sentir, d'accord, que c'est un effort. Même en retraite, il faut battre en retraite. Voilà. Pour vous, ça. Alors, dans les mots. Donc, il te dit, Uba Benoni, chez le Benoni, qui est censé être celui qui se bat contre son Yetzara, Yesh Gamken, Shte Madrigot. Il y a aussi deux niveaux. Oved Elohim, va Asher Lo Avado. Dans le Benoni même, il y a deux catégories. Il y a le Benoni qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien que la différence principale est entre le tzaddik et le tzaddik ne sert plus parce que c'est plus une difficulté. Le benoni le sert, c'est une difficulté. Dans le benoni, il y a les deux catégories. Ve'afal pikel et no racha. Mais attention, c'est pas un racha celui qui sert. On dit qu'il sert pas Dieu. Il sert concrètement. Ki lo avar miyamav shum avera kala. On parle d'une personne qui n'a jamais fait d'avera. Avec un qui aime kol mitzvot shachar le kaiman. Il n'a raté aucune mitzvah positive qu'il pouvait faire. Il les a toutes faites. Ve'talmud Torah keneged kulam. Et la mitzvah la plus importante, c'est étudier la Torah. Velo pasik pour mémégir ça. Et que c'est, on peut parler d'une personne qui ne s'est jamais arrêté d'étudier. Et pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, oui, mais il n'a pas servi Dieu, celui-là. Pourquoi il n'a pas servi Dieu? Et là seulement, chez Eino Ose Shum Milchama Mayetzer. C'est une personne qui ne fait plus de guerre avec son Yetzer, d'accord? Les Natsro, pour essayer de le gagner. Aller des Or Hashem, à Meir Al-Nefesh Elokish, Memor, Hachelit Alev Kanal. Il ne fait plus d'efforts pour essayer de gagner son Yetzer. Avec l'énergie et la lumière de son âme divine. Il n'y a plus d'effort. Pourquoi il ne fait plus d'effort? Pour deux raisons. Premièrement, il n'y a plus de guerre. Pourquoi il n'y a plus de guerre? S'il n'y a plus de guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposants. On est d'accord? Pourquoi il n'y a plus d'opposants? Pourquoi Yitzhara continue? Il arrête de m'embêter. On va donner un exemple. Voilà, je vous donne un exemple. Imaginez par exemple, quelqu'un, il a fait Teshuva, il a décidé que dorénavant il fait Shabbat. Ça fait déjà 10 ans qu'il fait Shabbat. Pourquoi les Tzara, ils ne continuent pas à l'embêter pour ne pas faire Shabbat? Pourquoi les Tzara s'est arrêté de l'embêter? C'est-à-dire qu'il n'y a plus les Tzara? Hein, Serge? Pourquoi les Tzara? Imagine-toi quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il fait Shabbat. Oui? Le Tzara.
Il va l'attaquer sur autre chose.
Pourquoi les Tzara ne l'embête pas sur Shabbat? Parce que le Tzara.
Il évolue.
D'accord? Le Tzara, il va t'attaquer que dans les choses qu'il pense que tu es faible.
Il te connaît
parfaitement, il est en moi. Il va m'attaquer. Que sur les points qui sait qu'ils sont des points faibles. D'accord, c'est comme dans un ring. On va pas attaquer quelqu'un dans un endroit où tu sais qu'il a une armure. Ça sert à rien, tu vas te casser les bras. D'accord? Tu vas l'attaquer dans un endroit que tu penses être un point faible. Et quand après le boxeur qui est en face de toi a comblé cette faille, ben, tu vas chercher une autre faille. C'est ça le but. Dans le combat, qu'est-ce qu'ils font? Je cherche la faille. Dès que je trouve une faille, pac, j'attaque. Le Yetzara, c'est pareil. Le Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, tu peux en vérité pendant des années, le Tzara, il t'embête plus. Pourquoi il t'embête plus? Parce qu'il t'a plus de faille. T'as pas de faille. Toi, tu crois qu'il t'embête pas parce que tu dis, voilà, avant il m'embêtait sur le Shabbat, il m'embête plus. Ça veut rien dire. T'as comblé la faille du Shabbat, mais t'as d'autres failles. Et tu te bats pas contre ces failles-là, c'est pour ça qu'il te laisse tranquille. Donc, ça veut dire que le fait que le Tzara ne me dérange pas, ça ne veut pas dire que tout va bien pour moi. Au contraire. Ça veut dire que je bosse pas assez. C'est David, d'accord?
Entièrement.
D'accord. Des fois, ça peut, non, c'est vrai, des fois, ça peut arriver. T'as les années, routine. Tu sens que ça roule. Si tu sens que ça roule, c'est qu'il y a un problème. C'est pas bon. Il faut sentir qu'il y a un effort. Alors, pourquoi les Tzara ne me dérangent pas? Il y a plusieurs raisons. On a dit, soit parce qu'il ne me dérange pas, parce qu'il sent que ça marchera pas. Il y a d'autres raisons. Kegon, par exemple, allez, on va prendre dans les mots. Allez, ça, vous allez suivre dans les mots ici. Alors, c'est toujours mieux de suivre dans les mots. Page 207, trois paragraphes avant la fin de la page.
Là, les petits 41.
Alors, Kegon, par exemple, Sheu Matmid Bet Limudo. Imaginons une personne qui est Matmid. Vous savez ce que c'est Matmid? Vous savez, pour ceux qui vont voyager beaucoup avec Elal,
ouais, c'est la carte.
Il faut une carte, comme la carte Fréquence Plus, enfin Flying Blue, là. Mais chez Elal, ça s'appelle Matmid. Matmid, ça veut dire quoi Matmid? Carte de fidélité, vous avez dit. Ça veut dire quoi Matmid? C'est une personne qui est assidue. D'accord? Pourquoi Yitzhara ne m'embête pas? Très simple, je vais donner un exemple. Parce que par exemple, c'est une personne qui, par nature, est une personne qui est assidue. Ça veut dire qu'il est attiré par l'étude, etc. Betivo, mito de lato. Depuis qu'il est né, il est comme ça. Il est attiré par l'étude. Pourquoi il est comme ça? Alidetik boret, amarashrora. Alors, on dit que le Zohar, il mentionne, il dit que, enfin, ici, il traduit ça par Lévi, d'accord? Il y a la Marashrora, donc c'est la, je sais pas comment il traduit ici en français. Il y a la, oui, bon, ici, ils ont traduit ça par mélancolique, d'accord? Le Zohar, il dit que, il y a la bille blanche, d'accord? La bille rouge, la bille, hein, une bille, ça veut dire, c'est une nature, la bille vert et la bille noire, d'accord? Alors, je vais expliquer tout de suite, d'accord? La bille blanc, c'est les gens qui, naturellement, ils sont positifs. L'habit, d'accord? Bi, c'est B-I-2-L-E, d'accord? L'habit rouge, c'est les gens qui sont naturellement nerveux. L'habit vert, d'accord? Vert, je sais pas à quoi ça correspond. Ça, je me rappelle pas. Et l'habit noir, noir, je me rappelle parce que c'est ce qu'il dit ici. L'habit noir, c'est les gens qui, naturellement, ils sont mélancoliques. Pas mélancoliques, mais bon, ça veut dire que voilà, ils sont désintéressés. C'est-à-dire, c'est des gens que les plaisirs de ce monde ne leur parlent pas. Donc, une personne dit, voilà, le tsar, il m'embête pas. Il dit, mais ça veut rien dire, il t'embête pas, parce que peut-être t'es mélancolique. Comme t'es mélancolique, rien ne t'intéresse, donc il t'embête pas. Ça ne veut pas dire que t'as avancé. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Vechen, pareil, il dit, voilà, le tsar, il m'embête pas avec les femmes. Il dit, pareil. Si t'embête pas avec les femmes, ça veut pas dire que t'as pas dit tsar. Vechen, pareil. En lo milchama mitavat nashim. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas de guerre avec le tsar en ce qui concerne le désir des femmes. Mipneshu metsulan betivo. Parce que c'est une personne qui est froide de nature. Des gens qui sont froids. Il voit une belle femme passer, ça lui fait rien. Il n'en a rien à faire. Qu'avant de l'attirer, il faut vraiment s'accrocher. D'accord? La Gemara a dit, par exemple, a dit que, alors, le terme de froideur, la Gemara a dit, par exemple, a dit que Ahav, il y avait un guerrier qui s'appelait Ahav, et on dit que Ahav, c'était une personne qui était froid. Une personne qui n'est pas attirée, il n'était pas attiré par les femmes. C'est pas qu'il est attiré par les hommes, Chassé Shalom. Hein, c'est une personne qui, bon, ça lui parle pas, quoi. C'est pas son truc. D'accord? C'est pas son truc d'être attiré par les femmes. Vechen, pareil. Dernier exemple. Bishar Tanugo Lamazé. Pour les autres plaisirs de ce monde. D'accord? Les plaisirs de la nourriture, les plaisirs de la vie. Il y a des gens qui ne sont pas attirés par les plaisirs de la vie. Pourquoi? Parce que naturellement, ils ne sont pas attirés. Donc, en d'autres termes, ce que te dit ici, l'Admor HaZaken, il te dit, ne crois pas que parce que tu réussis à être assis plusieurs heures à étudier la Torah, parce que tu n'es pas attiré par les femmes, et parce que t'es pas attiré par les plaisirs de ce monde, que ça veut dire que ça y est, t'as gagné ton Yitzhara. Tu dis pas du tout. T'es ta nature. T'as une nature qui est une personne qui est assidue. T'as une nature qui est une personne qui est froid, qui est pas attirée par les femmes. Qui est pas fou des femmes, si on peut appeler ça comme ça. Pour être un peu cru, on va dire qu'il n'est pas coureur de jupons. D'accord? Et tu peux avoir aussi une personne qui n'est pas attirée par les plaisirs de ce monde. Ça m'intéresse pas. Tu dis, viens, on va aller dans un bon restaurant. Dit, ouais, bof. Viens, tu vas bien manger. Ah, bof. Bof, 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 tout bof, bof. D'accord?
Tu lui proposes pas de prof,
hein. Exactement. Tout bof. Tu lui dis, viens, on va sortir. Bof, bof. Bof. Parce que c'est une personne qui n'est pas attirée. Non, mais il y a des gens comme ça. C'est des natures. D'accord? C'est pas facile à vivre. Mais alors, c'est des natures. C'est pas quelque chose que. C'est pas parce qu'il a tué son Yitzhara. Bof. D'accord? Voilà. Ça l'intéresse pas. D'accord?
C'est pas une zone.
Ça ne parle pas.
C'est de naissance. C'est de naissance. Ils sont pas attirés.
C'est
de
roupie.
Moi, je connais des gens qui n'ont aucun plaisir matériel.
Mais ça ne veut pas dire qu'il a tué sur Yitzhara.
Non,
pas du tout.
Il a bien un point faible.
Mais la haine, c'est pour ça. Alors, moi, maintenant, quand je vais devoir me battre contre mon Yitzhara, pour me forcer à étudier la Torah, pour me forcer à ne pas penser à des femmes, pour me forcer à ne pas sombrer dans les plaisirs, moi, je vais devoir me battre avec mon Yitzhara. Comment je vais me battre avec mon Yitzhara? Je vais devoir penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je vais devoir même me dire Akadosh Baruch Hu, il est grand, Akadosh Baruch Hu, il est fort, et même avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je vais devoir faire des stratagèmes pour pas tomber. Mais l'autre, ouais, il n'a pas besoin de ça. L'autre, c'est facile pour lui. Il dit, ouais, bon, c'est rien. Hop, il tourne la tête, c'est fini, c'est passé. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Et ben, celui-là, en vérité, on lui dit, monsieur, toi, tu crois que t'as la chance, mais en vérité, t'as pas de chance d'être comme ça. Moi, quand je vois, je dis, mais attends, regarde, alors, il a de la chance, celui-là. Il s'assoit, il peut rester 10 heures assis. Moi, je lui dis non. Je lui dis, t'as pas de chance. Lui, il a pas de chance. Parce qu'il sait pas ce que c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Quand on va arriver après 120 ans, lui, on va lui dire, bon, mais toi, t'as rien fait dans ta vie. À quoi tu servais? On t'a mis avec une nature, t'as appuyé sur play et ça a joué. Ça fait des play. Là, et ça a tourné. On arrive à la fin de la cassette, hein.
Pourquoi il a été créé?
Exactement. On dit, mais pourquoi t'as été créé? À quoi tu sers? Pour appuyer sur play, pour avancer? On t'a créé pour que tu cherches un effort. Et c'est dur pour lui à chercher un effort. Parce que, tant que ça marche, d'accord? Comme disent les Anglais, ils disent, si c'est pas cassé, ne le casse pas. Ça veut dire, lui, il dit tant que ça marche, qu'est-ce que tu veux que je me casse les pieds? Donc, toute sa vie, il peut être dans sa routine. Hop, il continue comme ça. Alors que moi, comme j'ai une guerre avec le Yitzhara, donc je me force à constamment me dépasser. Donc là, en vérité, c'est un chapitre dans lequel nous encourage beaucoup des gens comme nous. D'accord? Des gens qui ont un combat avec le Yitzhara. Et tu dis que finalement, toi, tu as la chance, c'est que finalement, quand tu vas arriver en haut, ce que tu peux être sûr, c'est qu'on dira pas, celui-là, il est venu pour rien sur terre. Ça, c'est clair qu'on dira pas. On dira, celui-là, tel jour, il a dépassé tel challenge. Tel jour, il a dépassé tel challenge. Tel jour. C'est pas du chiffre qu'on veut. On dira, Dieu, il dira, celui-là, j'ai vu qu'il a fait tel effort ici, tel effort ici, tel effort là-bas. Ça, c'est extraordinaire.
Quand,
évidemment. Évidemment, c'est des points. Quand tu arrives en haut, celui-là, on voit que, je sais pas comment t'expliquer. Quand, par exemple, tu vois un enfant, par exemple, qui a très peu de moyens. Et tu le vois comment il utilise tous les moyens qu'il peut pour gagner ici, pour gagner ici, pour gagner là-bas. C'est impressionnant. Parce que quand une personne a de la difficulté et qu'il arrive, c'est impressionnant. Pourquoi on est tous impressionnés quand on voit un bébé en train de commencer à marcher? Pourquoi on est impressionnés quand on voit un bébé en train de commencer à parler? Parce que c'était un challenge pour lui de parler. C'était un challenge pour lui de marcher. Et quand il a surmonté ce challenge, c'est impressionnant. Bah, imagine-toi qu'on est tous comme des bébés.
Donc si on est passable dans les actions, c'est-à-dire que genre on a 9 ou 9,5, on risque de passer avec les intentions.
Non, tu passes en haut. C'est en quoi passable?
Non, c'est-à-dire que pour parler d'un rapport avec l'école, si à 10 on passe de classe,
oui.
Et que ici dans cette ville-là, avec la balance des mitzvot et des averot, on est à 9.
C'est pas balance, c'est ça le piège. Non. C'est pas balance des mitzvot et des averot.
Tu dois pas atteindre 10.
Il n'y a pas de balance des mitzvot et des averot. C'est la balance de l'effort que tu as fourni. Ça, c'est la balance principale. Parce que, mis à part le fait qu'on va me juger sur les bêtises que j'ai fait et sur les bienfaits que j'ai fait, on va aussi m'évaluer sur à quoi j'ai servi sur Terre. Je vais dire, voilà, on t'a envoyé, qu'est-ce que t'as fait sur Terre? Qu'est-ce que t'as fait?
Au final,
d'accord?
C'est la mesure du delta.
Évidemment. On va me juger sur la performance.
D'accord?
Bien sûr. Sur la performance, c'est quoi la performance? Ça veut dire sur la balance de l'effort que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait des efforts ou pas? C'est pour ça qu'on va me juger.
Si tu étais assis, si tu passais.
Et ça, tu comprends que le tzaddik, il n'a pas ça. Le tzaddik n'a pas la notion d'effort. Donc pour lui, on va juger sur le chiffre. On va dire, bon, ouais, il a fait du chiffre. D'accord. Bon, il a fait du chiffre. On l'a envoyé. C'est comme une fusée, tu sais, quand on quitte l'environnement terrestre, d'accord. Tu envoies une fusée, bah, tu la laisses, vas-y, elle court. Et tu peux la laisser comme ça, elle va courir pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Elle avance. Tant que tu l'arrêtes pas, elle avance. Ah, c'est ça le tzaddik. Tu dis, mais à quoi ça sert? T'as vu, tu avances à 20 000 km/h. Mais bon, et alors? Ouais, ça t'intéresse plus parce que c'est normal. C'est normal, on l'a lancé, il s'arrête pas. Quand est-ce qu'on va apprécier la vitesse? C'est quand c'est difficile, quand on a combattu contre quelque chose. Ça, c'est le principe de la vie. Qu'on apprécie quelque chose quand il est venu avec la difficulté. Comme c'est écrit dans Shira Maalot, c'est écrit Azorim bedimra berina iktsoru. Celui qui va semer avec des larmes, il va récolter avec la joie. Pour récolter avec la joie, il faut semer avec des larmes. Quand tu as semé avec des larmes, c'est-à-dire que c'est venu avec beaucoup de difficultés, c'est là que quand tu récoltes les fruits, tu es content. Mais quand c'était pas un effort, de toutes les façons, c'était juste un or que tu as lancé, bah quand ça pousse, on n'a rien à faire. C'est pas quelque chose que tu peux dire que t'as une joie. Une joie. Ça, c'est la particularité qu'a le Benoni. Donc même dans les Benoni, il y a deux catégories de Benoni. Il y a le Benoni, on va l'appeler le Benoni endormi, tu vois. Benoni endormi, le gars, il est endormi, il est comme ça. Il est quel surnom on peut lui donner ce Benoni là?
Baba cool,
routinier.
Pas routinier, non.
Tranquille.
Relax, cool Raoul, d'accord, il y a pas de problème.
C'est un Marseillais, il est tranquille.
Parvenu.
Il a pas de problème, d'accord. Pour lui ça tourne, la vie elle tourne. Et tu peux laisser comme ça des années, ça tourne. De temps en temps, il est de Sahara, il embête un petit peu, d'accord.
C'est lui qui a raison,
sa femme elle lui a donné un truc, elle doit se retenir. Bon, c'est des trucs, c'est les babioles, c'est des trucs, c'est les bêtises, c'est les ch'touillottes. C'est pas le Yitzhara, comme de l'autre Benoni, que l'autre Yitzhara qui est chaud, d'accord, qui est chaud comme un four, qui est en train de lui casser les pieds à chaque fois. C'est un Yitzhara qui est light.
C'est Dana qui joue,
Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Alors. Comment on se bat avec le Yitzhara? D'accord? Comment on se bat avec le Yitzhara? Alors c'est justement. Et c'est là en vérité que je vais développer le point suivant. Quand tu as un Yitzhara qui est endormi. Donc du coup, pour se battre avec ce Yitzhara endormi, bah, tu utilises, on va dire, les fonctions de veille que tu as en toi. Chacun de nous a des fonctions qu'il a en veille. Au fond de nous, on a une émouna de série. Au fond de nous, on a un amour de Dieu de série, qu'on verra plus tard dans le chapitre suivant. Donc le Benoni qui est endormi, celui-là, Baba Cool, comme tu l'as appelé, d'accord? Celui-là, même quand le Sahara l'embête un peu, il se rappelle, il dit, ah, mais je suis juif, ça se fait pas. Et c'est fini, hop, le Sahara est endormi. Et il suffit juste de se rappeler qu'il est juif, c'est fini, il a tué son Sahara. Alors que d'un autre côté, celui qui est Sahara, il lui sort les gros moyens, il est obligé de sortir les gros moyens aussi. Alors c'est quoi les gros moyens? Il va essayer de penser à la grandeur de Dieu, il va essayer de penser à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu, il va essayer de vibrer Dieu parce qu'il dit, le Netzar, il me fait vibrer dans le mal, donc je suis obligé d'essayer de vibrer aussi dans le bien. Mais concrètement, ce qu'il va gagner, c'est que pour s'obliger à se battre contre son Netzar, il va être obligé de développer des forces en lui que l'autre n'a même pas besoin de développer. Donc du coup, il va être obligé de développer en lui des forces, une passion vers Akadosh Baruch Hu, que l'autre Benoni n'aura jamais. L'autre Benoni ne saura pas ce que c'est la passion de Dieu. On peut être ultra religieux, ne faire aucune avéra, d'accord, et faire toutes les mitzvot, mais ne pas savoir ce que c'est la passion de Dieu. Pourquoi il ne développe pas la passion? Parce que la passion, tu la développes quand tu as besoin de la développer. Mais quand tu n'as pas besoin de la développer, ben ça marche, ça marche. Mais le deuxième Benoni, comme il a la passion du Yetzirah, donc il est obligé constamment d'essayer de développer la passion du bien. Vous comprenez que ça n'a rien à voir, il n'y a pas photo. Quand tu fais quelque chose avec passion, quand tu fais sans passion, il n'y a pas photo. Donc les deux Benoni, quand tu vas arriver en bout de course, un va lui dire, ouais, ben c'était ennuyé ton chemin. On t'a mis dans une autoroute, t'as roulé, droit, barre éternue, droit. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien, il n'y a pas de caractère, il n'y a rien du tout. Alors que l'autre, d'accord?
C'est pas grave, il est arrivé quand même.
Pourquoi pas? Mais le but n'est pas d'arriver. Le but, c'est la route.
Oui, mais si c'était tout droit, sans souci.
Notre but, c'est pas d'arriver. Notre but, c'est de rouler. C'est ça le piège dans lequel on tombe.
Justement, si rouler sans problème, sans souci, pourquoi pas?
Tu as raison. Mais ce que je vais expliquer, c'est que le but sur Terre, le but qu'on a sur Terre, c'est pas d'arriver à une destination. C'est pas d'arriver d'un point A à un point B. Le but n'est pas d'arriver au point B. Le but, c'est de faire la route du point A au point B. Et quand j'arriverai au point B, on me dira pas bravo, t'es arrivé au point B. On me dira non. Maintenant, on va évaluer comment t'as fait la route. Ça, c'est le but. Le but, c'est pas de franchir et dire j'ai gagné, je suis arrivé le premier. Prems. On n'a rien à faire, t'arrives en premier. Tu peux arriver en dernier, ça ne nous dérange pas. Ce qui compte, c'est qu'on veut voir quelles étaient tes performances. Par rapport au moteur que tu avais, par rapport à la machine que tu avais, comment t'as joué, comment t'as... Et c'est sur ça qu'on va te juger. On va donner une note par rapport à ta performance, par rapport aux outils qu'on t'a donné. Donc ça n'a complètement rien à voir avec le monde carriériste dans lequel on se trouve aujourd'hui. Avec la logique carriériste dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on dit, on va estimer une personne, on va évaluer une personne par rapport au résultat où il est arrivé. On dit, il est arrivé au point B, après C, après D. Dans la Torah, c'est pas comme aujourd'hui. Peu importe, c'est arrivé B, C, D, ça nous dérange pas, ça. Ce qui nous dérange, c'est qu'on veut voir comment tu as joué.
C'est le mérite, on peut dire, ou alors tu veux pas utiliser ce mot.
Écoute, je te donne un exemple. C'est quand, par exemple, tu vois un match de foot.
C'est pas le mérite.
D'accord? Bon, bien sûr qu'il y a une équipe qui va gagner. Mais quand tu regardes un match de foot, c'est pas pour voir qui aura deux et qui aura un à la fin. Parce que ça, si le but c'est le résultat, tu peux regarder à la fin, t'as pas besoin de perdre 3 heures de ton temps. Combien de temps c'est? 3 heures? T'as pas besoin de perdre 2 heures de ton temps. Tu dis voilà, vous montrez à la fin du match, en 3 minutes, les meilleures actions. Bon, ça je sais qui a gagné et comment il a gagné. Et basta, 3 minutes. Pourquoi tu regardes le match pendant 2 heures? Parce qu'il y a pas que le résultat qui compte. C'est le jeu. Tu peux avoir une équipe qui a très bien joué. Mais qui a perdu? Et qu'est-ce qu'on dira? On dira, ouais, ils ont perdu, mais ils ont bien joué. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu. Mais ils ont bien joué. Ça arrive des fois, ça? Ils ont perdu parce qu'ils ont raté un pénalty, ils ont raté un truc, voilà, ils ont raté. Oui, tu as raison. Mais concrètement, quand tu as vu le jeu, tu kiffes le bon jeu.
Oui, mais c'est le résultat qui compte.
Tu as raison.
Les Italiens, c'est le 2.
Il y a un dernier match que l'équipe de France a joué pour le mondial. Elle a perdu contre l'Allemagne. Elle a perdu. Elle aurait pas dû perdre, mais elle a perdu.
Elle a perdu.
Mais elle a perdu.
Tu as raison que dans le monde dans lequel on vit.
Elle a perdu.
Dans le monde dans lequel on vit.
Paris, ils ont gagné Paris.
Tu as raison. Que dans le monde dans lequel on vit, d'accord, c'est un monde carriériste. Effectivement, tu as raison. Que dans le monde d'aujourd'hui. T'as pas gagné, t'as perdu.
C'est la culture du résultat.
La culture du résultat. Dans la Torah, on n'a pas la culture du résultat. Dans la Torah, on nous apprend la culture de l'effort. Donc c'est complètement différent du monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, une personne, on va l'évaluer par rapport à combien il gagne et qu'est-ce qu'il est arrivé comme but dans la vie. Peu importe le chemin qu'il a utilisé. Ça veut dire qu'à la limite, si maintenant une personne est dans un poste, dans une entreprise, et que pour avoir un poste plus haut, il a écrasé celui qui était à l'autre poste, il a déchiré, etc. Ça fera de la peine qu'il écrase un autre. On dira, ah oui, il a eu le poste. C'est tout. Il a eu le poste. C'est comme ça. Il a réussi. Il a eu le poste. Ça, dans la Torah, c'est mamache le contraire. On te dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il a eu le poste, qu'il a pas eu le poste? Ce qui compte, c'est comment il est arrivé. S'il est arrivé à un poste plus haut, mais qu'il a écrasé tout le monde, on dit, mais t'as rien compris. T'es passé à côté de ton poste.
C'est machiavélique.
D'accord?
Mais souvent, on dit, le mec, il a eu ses examens, il dit, il est tombé malade juste avant, il a du mérite.
Bien sûr.
Donc, il y a une corrélation quand même.
Le bonhomme, il était très bon toute l'année. Et malheureusement, les deux dernières semaines avant les examens, il est tombé malade. Qu'est-ce que c'est pas de sa faute? Bon, il a révisé ce qu'il a pu et il a pas eu une super note. Alors, au niveau carriériste, au niveau résultat, comme tu dis, la culture du résultat, on dira, il a eu mention. Ah bien. Voilà. C'est comme ça. Il n'a pas eu de mention celui-là. Mais d'un autre côté, quand sa mère, son père vont le voir objectivement, ils vont lui dire, écoute, t'as assuré. c'est vrai que bon, le résultat n'était pas comme ce que tu aurais espéré. Mais moi, j'ai vu d'où tu as démarré, j'ai vu avec quel outil tu as travaillé, tu as assuré. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à, il faut apprendre à estimer et apprécier l'effort. Ça, c'est la merde. Ça, c'est le but de la Torah.
Pour la Guémara, le résultat, c'est que le qui compte à la fin, c'est le.
C'est l'effort.
Non, mais dans la Guémara,
oui.
C'est la finalité. C'est-à-dire, au début, il n'y a pas de discussion à droite à gauche, mais c'est la halakha qui compte.
Pas forcément.
Justement.
J'étudie pas la Guémara pour avoir la halakha. Parce que dans ce cas-là.
Bien sûr, sinon après, tu vas jusqu'à la fin.
Non, dans ce cas-là, je peux ouvrir directement un Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, il va m'éviter de perdre trois pages de texte. Il va me dire directement, trois pages de texte dans lesquelles on a dit Rabbi Intel a dit ça, mais une autre version dit que Rabbi Intel a dit ça. En vérité, on pense que la deuxième version n'est pas bonne, il faut prendre la première. Après, on dit non, on pense que la deuxième est la meilleure. Et à la fin, on arrive, on dit en vérité, ils sont plantés, c'est la troisième version qu'il faut prendre. Et moi, tu dis, j'ai perdu mon temps parce que tu m'as fait perdre trois pages. T'as envie de dire directement la halakha? Moi, je réponds non. Le but, c'est pas seulement d'être arrivé à la conclusion. Parce que ça, on aurait pu faire un condensé pour avoir toute la Guémara. On aurait pu faire un condensé en 100 pages, on dit voilà, condensé des conclusions de la Guémara. Hop, c'est fini, on connaît. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'expliquer comment on est arrivé à ce code civil, comment on est arrivé à ce code, comment on est arrivé à ça, la rote. Mais c'est, j'admets que c'est complètement différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Enfin, dans le monde juridique, on n'en a rien à faire de savoir comment on est arrivé à la loi. Enfin, on n'en a rien à faire. En tout cas, celui qui a en droit, lui, ce qu'il doit savoir, c'est quelle est la loi. Après, si on va dire, tu sais, on a rajouté ce texte de loi parce qu'il y avait une fois un problème, ça fait 50 ans, et ça, on l'a rajouté parce qu'il y avait un problème, ça fait 200 ans. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont étudier le droit plus profondément qu'ils l'étudieront, mais une personne standard, elle n'en a rien à faire. Lui, ce qui compte, c'est qu'ils connaissent la loi. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, le chemin est aussi important et même plus important que l'arrivée. D'accord? Ça, c'est très important, ça. Parce que c'est pour ça que on dit que la Gemara a dit que celui qui se préoccupe pour faire une mitzvah et qui voulait faire la mitzvah et qui ne l'a pas faite, Dieu le considère comme s'il l'a faite. Nous, quand on entend ça, on a envie de dire, bon, c'est mignon. Enfin, du style, le bonhomme, il l'a pas fait, on lui dit, bon, ça va, c'est comme si tu l'avais. D'accord?
L'intention.
Et qu'est-ce que tu te dis? Non! Tu dis qu'à Kadosh Baruch Hu, il te dit, comme j'ai vu que tu voulais la faire, ben moi j'ai vu le chemin que tu as fait pour le faire. Donc je considère comme si tu l'avais. Ça veut dire que c'est vraiment que c'est quelque chose de réel. C'est ma mâche qu'on est en train de dire ici. Donc,
même Jacob, il a été puni parce qu'il s'est
endormi sur ses. Ouais, il a voulu s'asseoir.
Il a voulu se reposer. Ouais.
Et on lui dit, non, c'est pas le temps de reposer.
Pardon. C'est un truc que j'ai toujours trouvé difficile, cette notion-là. Parce qu'au final, je prends l'exemple d'un homme qui fait rien. Il dit, bon, allez, je fais un effort, je mange cachère, je fais Shabbat, machin. Donc, il a créé un mode de vie complètement différent.
Oui.
Une fois qu'il y est arrivé, il se retourne, 10 ans en arrière, 20 ans, peu importe.
Il dira, j'ai fait du chemin.
J'ai appris, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, c'est sûr qu'il ne peut pas... Quelqu'un qui fait tchouva, il ne peut pas évoluer comme... La tchouva, c'est un bouleversement complet.
Oui.
Donc, OK, maintenant, il peut faire des petits efforts, etc. Mais effectivement, la notion, elle est beaucoup plus difficile. C'est plus la guerre qu'il a eue,
non.
Comme quand il a fait tchouva. Donc aujourd'hui, la guerre qu'il va avoir...
Et d'ailleurs, il sent qu'il avance très peu. Et
il avance beaucoup plus.
Mais il avance très peu.
Mais d'un autre côté, il peut être fier de lui en disant « Quand même, je suis arrivé quelque part. »
Bon, maintenant,
il
y a un point que je voudrais préciser d'un autre côté. C'est que chercher des nouveaux combats, c'est beau. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi maintenir l'existant. C'est comme dans les affaires. C'est-à-dire lancer de nouvelles idées, lancer de nouveaux projets, c'est beau. Mais maintenir l'existant, c'est aussi un effort. C'est pas facile. D'accord? Avoir des enfants, c'est magnifique. Mais après, s'en occuper, c'est aussi important. Maintenir l'existant. D'accord? Non, mais c'est sérieux, c'est la même chose. Ça veut dire, chaque nouvel enfant que tu as, c'est un nouveau projet, c'est très bien. Mais il faut aussi savoir maintenir l'existant. Et c'est deux choses. Mais ce qu'on veut te dire ici, c'est que on doit constamment chercher les nouveaux challenges dans la vie. Tout constamment. Nouveau challenge. Donc, je reprends le fil. Qu'est-ce qu'il y a de plus le Benoni qui se bat avec son Yetzara? C'est que comme son Yetzara lui envoie la passion du mal, pour contrer cette passion du mal, il va être obligé de développer la passion du bien. Comment il va développer la passion du bien? Il va développer dans sa tête ce qu'il dit ici, les olid mi binato, il va essayer de faire naître dans son esprit, ruar da'at vir atashem emocho. Il va essayer de générer la connaissance de Dieu dans sa tête. Il va essayer de créer la crainte de Dieu dans sa tête. Il va faire des efforts pour vraiment s'inspirer, pour essayer de s'inspirer la passion, l'amour, la crainte de Dieu. Les ishamer chez le lavar mitzvot l'otase. Maintenant, il n'a pas peur, parce que le Yitzhara lui propose une avéra qui est là, qui est claire devant lui. Et il va essayer de se convaincre qu'il faut avoir peur de Dieu, et que c'est pas bien, et que c'est très grave. Donc il fait un effort pour ça, parce que cet effort, il n'est pas naturel. Le Yitzhara, il lui dit, mais arrête cette histoire, viens, on va fauter maintenant. Il doit faire un effort pour se dire, mais non, c'est grave. Mais non, mais t'as pas idée, mais c'est grave. Et il doit se convaincre que c'est grave. Donc c'est un effort, il se bave avec lui-même. Ve'avat Hashem Belibo. Pareil, il va faire un effort aussi pour essayer d'aimer Hashem. Pour essayer de se dire, je vais faire une mitzvah. La mitzvah, il a pas envie de la faire, il a pas envie de se lever, il a pas envie de bouger. Il va essayer de se convaincre, de se dire, mais non, mais attends, mais c'est bien, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. À la fin, le Yitzhara, il dit, t'as vu, je t'avais dit que c'était nul. Et qui tu réponds, dis bon, c'est pas grave, la prochaine fois ce sera bien. Il va essayer, il va essayer. C'est une guerre. Il va essayer de créer une passion alors qu'il ne l'a pas, la passion. Veki va mitzvot, vetalmud Torah keneged kulam. Maintenant, le Benoni de catégorie A, celui qui n'a pas de guerre contre les Tzahara, n'aura pas besoin de développer tout ça. Il n'a pas besoin. Et la Dailo Be'ava Mesuteret, il va se suffire de l'amour caché, Be'asher Be'lev Klalut Israël, qu'il y a dans le cœur de chaque personne d'Israël. Chaque personne d'Israël a deux séries, un amour, comme on verra plus tard dans le chapitre 18. Chaque personne d'Israël a un amour caché envers Dieu. Donc, c'est quoi l'amour caché? C'est le fait que je sais que je suis juif. C'est tout. Le Benoni de catégorie A, celui qui est froid, l'endormi, celui-là, même quand son Yetzara lui dit, viens, tu vas dire une petite parole blessante à un autre, il va se rappeler, il va se dire, ah, je suis juif, ça se fait pas. Et ça y est, il s'est calmé. Fini, next, il peut passer au suivant. Ça veut dire qu'il suffit juste de se rappeler qu'il est juif, c'est fini, il s'est calmé. Alors que l'autre, Yetzara, c'est rien ça. Yetzara, il écrase, il dit, d'accord, t'es juif, et alors, qu'est-ce qu'il y a, c'était juif, c'est pas grave. Ça lui dit, bon, t'es juif et tu as fauté, qu'est-ce qu'il y a, t'es un juif fauteur. C'est quoi le problème? C'est très difficile. Mais ça veut dire que de là, on comprend que le Benoni de catégorie B, en vérité, c'est peut-être celui qui fait le travail principal dans le monde. C'est pas peut-être, c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle 99, on va dire encore 99% des gens rentrent dans cette catégorie, cette dernière catégorie. Des gens qui se battent avec leur Yetzara. Vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez que Dieu, quand on crée un projet, on crée 99% de ratés?
Non.
D'accord, ça marche pas comme ça. Normalement, si le but du monde, c'est de faire les tzadikim, Dieu aurait dû faire 99% de tzadikim et 1% de ratés. Ouais. Pourquoi naturellement, dans la conception, telle que Dieu a conçu le monde, t'as la majorité du monde qui sont incapables d'être comme les tzadikim, qui sont incapables d'être comme le Benoni endormi, et c'est des Benoni qui doivent se battre constamment avec leur Yetzara. C'est que forcément, le but est ici. Dieu a bien conçu son monde, il a pas conçu, le monde n'est pas mal conçu. Ça veut dire que le but est ici, le but d'Akadosh Baruch Hu est dans le Benoni, c'est là le but principal du monde. On va créer aussi des tzadikim parce qu'il faut des pros, d'accord? Il y a des pros dans le monde qui sont là pour arranger, pour réparer la machine quand il y a un problème. Mais c'est pas eux le but du monde. Le but du monde c'est le Benoni. Le but du monde c'est chaque fois que je me batte avec mon Yitzhara, le monde a été créé pour ça. Enfin, on a complètement renversé la situation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par rapport au chapitre d'avant, on a complètement renversé la situation. Jusqu'à maintenant, le Tzadik c'était la star, le Benoni c'était la star. Là maintenant, on dit attends, notre vraie star c'est le Benoni qui se bat avec son Yitzhara. C'est lui la vraie star. Parce que la majorité des gens sont comme ça. Et c'est lui qui Oved Elohim, c'est lui qui sert Dieu au présent. C'est lui qui a un combat au présent et lui il a plus de mérite que l'autre. Parce que lui, objectivement, il se bat avec son Yitzhara tous les jours. Donc c'est ce qu'il dit ici. Velachen enonikra oved klal. Voilà pourquoi notre fameux Benoni endormi là, Babakoul, hein, de catégorie A, on dit mais t'es pas oved, tu sers pas Dieu toi. Bon c'est vrai que tu fais les mitzvot, tu fais les Torah mitzvot, c'est pas de problème, mais tu sers pas Dieu, c'est pas un service pour toi, c'est quelque chose, c'est une nature. Qui avazam souteret et napolat oved klal. On dit mais quoi? Alors finalement attends, viens on va analyser ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? T'as une nature acide, donc t'étudies la Torah toute la journée. Mazal tov. T'es pas attiré par les femmes, donc tu sors dehors dans la rue, tu vois une belle femme, ça te fait rien. Très bien. On essaie de t'attirer avec les plaisirs de ce monde, ça te fait rien non plus. De temps en temps, les Tzahara, ils t'envoient une petite Avera, tu lui dis non, je suis juif, ça se fait pas. Ça veut dire quoi? Cet amour caché que tu as envers Dieu, est-ce que c'est toi qui l'as fait cet amour? T'as rien fait, toi. Ça, c'est un amour caché que chaque juif a en lui depuis qu'il est né. Donc on dit finalement, tu sers à rien. T'as rien innové dans ta vie. T'as fait rien du tout. Parce que la seule fois où tu t'es battu avec ton Yitzhara, d'accord? La seule fois où tu t'es battu avec ton Yitzhara, t'as utilisé l'amour caché que tu avais en toi vers Dieu. Mais tu l'avais déjà cet amour caché. Tu l'avais de serré, donc t'as rien fait, t'as rien rajouté. C'est-à-dire quand on va arriver en fin de parcours, on va dire qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Eh ben il est arrivé au point B. Et qu'est-ce qu'il a innové? Zéro, walou.
Il nous a rajouté un
chapitre. Il dit, mais il s'appelle pas Oved celui-là.
C'est pas le chapitre.
Mais il est pas Oved. Il dit, mais t'as pas servi Dieu toi. T'as rien fait. T'as rien fait du tout. T'as fait des mitzvot, mais qu'est-ce que t'as innové?
C'est mieux d'être comme ça que
t'es tranquille.
C'est monotone. C'est monotone, ça n'a pas de caractère, ça n'a pas de tenue, ça n'a rien. C'est naze.
Alors c'est mieux d'être le contraire, non?
Non, c'est mieux d'avoir...
J'ai pas dit que c'est mieux d'être le contraire.
Non,
attends.
Mais ça, on le sait, mais s'il reste comme ça, c'est mieux qu'il reste comme
ça. Je dis pas qu'il sera... Alors, je comprends ta question.
Stagner, c'est pas...
Je ne dis pas qu'il sera puni quand il arrivera en haut. T'inquiète pas, on lui mettra le tapis rouge.
Il a fait que
des mitzvot.
Il a fait que les minimums.
Mais on va lui dire, t'as servi à quoi?
Bah, de faire les minimums.
Il t'a servi à quoi? Le bonhomme, il a fait des études. Il a fait des hautes études. On lui a donné des gros outils. Et bon, voilà.
Il a fait le minimum.
Voilà, on lui a donné une Ferrari, hein, c'est-à-dire, on a donné une Ferrari, il a roulé à 130, normalement, voilà, etc. Il a jamais tiré dessus, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as innové? Qu'est-ce que t'as fait? C'est péché, c'est péché.
C'est du gâchis.
C'est du gâchis. D'accord? C'est du gâchis. Maintenant, Je dis pas qu'on le punira. On le punira pas, mais on dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as innové? Nous, on veut voir ce que la personne a innové dans sa vie. Il dit, voilà, j'avais un challenge, j'ai surmonté le challenge. Ah, là, on peut dire, j'ai fait quelque chose. Oui, là, on peut dire, je suis Oved. Sinon, on dit, écoute, c'est monotone.
Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie?
C'est pas qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as innové? Quel est le chidouche? Je te donne un exemple. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Pourquoi l'enfant, d'accord, quand il est petit, quand il va commencer à parler à un an, on va dire, waouh, chaque mot qui va sortir, on va dire, ah, bravo. Et après, quand il a trois ans, on lui dit, tais-toi, arrête de parler. Qu'est-ce qui a changé? C'est quand il avait un an, c'était un chidouche, c'était nouveau pour lui de parler. Donc c'est pour ça qu'on apprécie la nouveauté. Mais quand il a 3 ans, que c'est plus nouveau pour lui de parler, on dit tais-toi, arrête de parler.
Après, c'est un magnéto.
D'accord. On lui dit arrête. Parce que qu'est-ce qu'on apprécie? On apprécie quelque chose de nouveau. Il y a un exemple que le Midrash a même. Il dit quand il y a un roi qui a envie de se détendre, il demande qu'on lui amène quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on lui amène de nouveau? On va lui amener un perroquet. Et on va mettre le perroquet devant le roi. Et le roi, il va dire bonjour. Le perroquet va répondre bonjour. D'accord. Mais qu'est-ce qui amuse le roi qui a un perroquet qui répond bonjour? Il a des ministres devant lui qui sont capables de parler avec un français parfait, qui sont capables de lui dire des mots qu'il n'a même pas pensé. Pourquoi il kiffe le perroquet? Parce que le perroquet, c'est nouveau. C'est nouveau qu'un oiseau, il parle.
C'est original.
C'est original.
Ça l'amuse.
Exactement, original, chazak pour le mot. Ben, la même chose, quand la personne va arriver après 120 ans, tu vas lui dire, quelle a été ton originalité? Qu'est-ce que t'as innové? Qu'est-ce que t'as innové? Où t'as été original? Il faut de l'originalité dans le monde.
Mon exemple, j'aurais dit, est-ce que t'as transpiré pour moi? Est-ce que tu as fait un effort pour moi?
Mais oui.
Au même titre que le sport. Mais alors, il y en a pour qui c'était
c'est
un effort.
C'est pas original, il n'y a pas de caractère, c'est rien, il n'a rien fait
c'est
le bonheur.
Pas, non, c'est pas, moi, j'aurais pas jugé l'originalité, j'aurais dit c'est plus l'effort en termes de transpiration. Qu'est-ce que tu as fait comme effort?
Donc,
en quoi tu t'es levé le matin, c'était dur pour toi de te lever pour aller à la tefila, alors que d'autres, à 4h du matin, de toute façon, ils sont debout, ils n'ont pas besoin de dormir.
Mais l'effort est dans l'originalité. L'originalité vient par l'effort. C'est réciproque, les deux vont ensemble.
D'accord. Dit, tu prends l'exemple de l'enfant qui a un an, oui. 3 ans, et s'il aurait été muet?
Si,
s'il aurait été muet.
Tu as raison.
Donc il y a quand même un minimum.
Mais j'ai compris. Mais voilà. ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai apprécié chez l'enfant, je vais essayer de simplifier l'exemple. D'accord. L'enfant, quand il avait un an, il a commencé à parler, je l'ai applaudi. Maintenant, à 10 ans, il va continuer à parler. Il va dire, pourquoi tu m'applaudis pas quand je parle? Bah, tu m'applaudis quand j'avais un an. Pourquoi tu m'applaudis pas à 10 ans? Je lui dis, parce que maintenant, c'est plus un effort pour toi de parler. Donc, c'est une habitude. Donc, c'est plus un challenge pour toi. Par contre, quand tu vas me ramener des bonnes notes, là, c'est un challenge. Là, je dirais bravo. D'accord? Si d'habitude, parce que c'est ça, on apprécie le challenge. Quand c'est plus un challenge, on n'apprécie plus. C'est fini. Où est l'originalité? Où est l'effort?
Non, mais alors,
c'est monotone,
alors,
sinon.
C'est une bagarre du matin au soir.
C'est une bagarre de tous les jours, exactement. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose que le tzaddik est incapable de faire, et que le benoni de catégorie A peut faire, mais comme son yetzahara ne l'embête pas, donc concrètement, il ne le fera pas, parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Son yetzahara ne l'embête pas, et il arrive à le faire taire avec avec un petit goût. Donc du coup, il ne sait pas ce que c'est de développer la passion. Il n'y a pas d'originalité, c'est monotone, c'est nul.
Jusqu'à où alors on peut aller?
Avec quoi?
Se bagarrer du matin au soir.
Nos limites. Constamment pédaler. Constamment. Il faut constamment se battre. Le but n'est pas le résultat. Le but est la bataille.
Il y a deux combats finalement. Il y a le combat de servir Dieu tous les jours et de combattre le mal qui nous attaque tous les jours.
Oui. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'abord le combat.
Combattre la vie civile et le travail.
Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a le combat de faire un maximum de mitzvot, de servir Dieu. Ça, c'est un combat. C'est le combat qu'on a tous les jours de faire des mitzvot. Mais il y a un deuxième combat qui est en vérité encore plus important, qui est le combat de se battre contre son yetzahara pour rajouter et faire quelque chose qui m'est difficile. Et c'est pour ça qu'il te dit, tu peux être religieux, mais zéro originalité. Tu fais rien, tu fais un nouveau. Ce que tu as fait comme tes parents, ils ont fait, comme tes grands-parents, ils ont fait. Ça veut dire qu'en vérité, t'as rien rajouté. On dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Ton père, il a fait la même chose. Qu'est-ce que t'as rajouté, toi? T'as fait la même chose, copier-coller. Qu'est-ce que t'as rajouté? Où est ton originalité? Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait du tout. T'es jamais battu contre les Sahara. Tout ce que t'as fait, c'était des acquis que tu avais. Quand il arrive en haut, Dieu lui dit, écoute, c'est pas que j'ai perdu du temps avec toi, mais bon.
Mais c'est bien, t'as pas volé, t'as pas.
Bravo, bon, c'est bien, bravo.
C'est ça que tu reviens.
Quoi? J'ai pas dit que tu reviens. Pas dit que tu reviens.
Mais je dis que. Tu reviens ou ça n'a rien à voir?
Non, j'ai pas dit que tu reviens, mais je dis que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer quelqu'un qui a bossé et quelqu'un qui n'a pas bossé. D'accord? Donc c'est pour ça que celui-là, il n'est pas appelé, et il n'est pas appelé maintenant. Je finirai juste avec ça parce qu'on est déjà à l'heure. Il dit, Vechen, pareil. Af Miché no Mavim Vilmudo Ketivo. On va imaginer une deuxième catégorie de personnes. Une troisième, en vérité, catégorie de Benonim. C'est une personne qui, quand il était jeune, n'était pas babagoul. Hein, c'était quelqu'un qui avait un gros Yitzhara. Mais tellement il s'est forcé, que maintenant c'est devenu une seconde nature chez lui. Bah, au Rachem. Ça veut dire que tellement il s'est habitué, que maintenant il a changé, et que maintenant, voilà, les plaisirs de ce monde-ci ne l'intéressent plus. Ah, pareil. Il te dit, celui-là aussi, c'est la même chose. Il te dit, maintenant que t'as déjà fait tes chouvets, que c'est devenu une seconde nature, on te dit, il n'y a plus d'originalité. Il faut créer une nouvelle originalité. Il faut créer un effort. Il faut que tu te bases sur quelque chose qui est difficile pour toi. Et là, il faut que quand tu arrives le soir, tu dis, ah, j'ai fait quelque chose de nouveau. Ça, j'arrivais pas à faire avant. Je l'ai fait aujourd'hui. Yes, je l'ai fait. Ça, c'est bien. Là, tu peux t'as fait quelque chose.
Yes,
je voilà. J'ai juste terminé de parler, 10 secondes. Rakshir, donc, venaser gelote vacheni, dailo beava mesuterreklo, elaimken rotse les modes de termer giluto, sauf si, quand va devenir, à partir de quand le Bélonie, on peut dire qu'il va servir Dieu, c'est quand il va s'habituer à servir Dieu plus que son habitude. Ça veut dire comme ça. Là, je résume après la question. On a trois catégories de Bélonie. Bélonie catégorie A. C'est celui, babakoul, l'endormi. C'est-à-dire que lui, on lui dit rajoute dans la Torah, il rajoute, c'est facile. Même quand Soyet Sahara l'embête un petit peu, il lui dit, mais je suis juif, c'est assourd. Il entend le mot assourd, c'est fini, c'est fini, il est parti. Il est tranquille pour 3-4 ans, d'accord? Ça, c'est une bonne catégorie. Il ne sait pas ce que c'est servir Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas un tzaddique. Parce que concrètement, il a Yet Sahara en lui, qu'il n'embête pas souvent, mais il a Yet Sahara. Bélonie catégorie B, c'est le bélonie que le Yet Sahara, il n'arrête pas, il tarabuse tous les jours, il déchire. Et tous les jours, c'est un nouveau combat. Ça, la majorité des gens sont dans cette catégorie de Benoni. Benoni catégorie C. À la base, il était en catégorie B. C'est-à-dire, Soyet Sahara l'attaquait tous les jours. Mais avec le temps, il s'est fait une seconde nature. Par exemple, il s'est habitué à étudier une heure par jour. Donc maintenant, une heure par jour, c'est la norme. Donc quand il va étudier une heure par jour, c'est plus un combat. Alors, qu'est-ce qui est particulier chez ce Benoni de catégorie C? C'est que, à partir de quand on va dire qu'il va casser son Yitzhara, c'est quand il va étudier plus qu'une heure. Il va casser sa nature. Il avait l'habitude d'étudier une heure. Il va étudier 1h10. Ah, quand il va commencer à étudier 1h10, le catégorie C, là, il va sentir qu'il va commencer à transpirer. Mais tant qu'il faisait une heure, c'était une habitude. Et ça, en vérité, on peut dire que nous aussi, chacun de nous, on rentre dedans, mais cette catégorie.
Cette heure-là, il est pas embêté.
Pourquoi?
Il est pas embêté
pourquoi
pendant cette heure-là.
Parce que le A, même quand il rajoute, c'est facile. Il a une nature comme ça. Le C, ce n'était pas facile, mais comme il s'est habitué, l'habitude est devenue une seconde nature. Donc maintenant, il s'est habitué. Faire Shabbat, c'est normal. Étudier, venir en cours de Tania, c'est normal. Alors, il transpire pas pour ça, c'est normal, c'est une habitude. Ah, qu'est-ce qu'on va appeler quelque chose que tu vas transpirer? C'est quand tu vas faire quelque chose qui est plus que ton habitude. Tu vas casser ton habitude. Si j'avais l'habitude de donner une heure, je vais donner 1h15. Ah, là, tu sens que tu as cassé quelque chose. Ça va être le thème du cours la semaine prochaine. Et en vérité, ça m'amache le thème de la semaine prochaine, ça nous concerne tous. D'expliquer qu'en vérité, le but d'un Benoni, c'est d'aller au-delà de ses habitudes. Donc la semaine prochaine, ça va être m'amache le thème. La notion de l'habitude et comment casser et aller au-delà de ses habitudes. Et vous verrez qu'il va nous donner plusieurs conseils. Il va nous donner plusieurs manières pour analyser tout ça. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on s'arrête un peu au milieu, mais c'est pas grave. Okay. Voilà, on s'arrête là. Oui, il y avait une question.
Non, c'était juste pour dire, est-ce qu'il y a un relais pour le Benoni et le Tzadik par rapport à ça? Sachant que, comme je mets, on va peut-être un peu plus loin, le Tzadik Naklali, est-ce que c'est fait pour le Benoni?
Non.
C'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde, mais on va dire qu'une personne qui est...
Parce que là, il parle de désir...
J'ai compris. Une personne qui est Tzadik n'en a pas besoin. Oui, c'est valable pour tout le monde, mais il ne se sent pas concerné. Ça veut dire qu'il a même du mal à comprendre. Quelqu'un il va venir et dire, tu sais, j'ai du beaucoup de mal avec les femmes. Dire quoi les femmes? Mais rien. Il n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il est ailleurs. C'est pas, il peut comprendre, mais il ne ressent pas. Évidemment. Ça concerne tout le monde, mais ce qui veut dire ici, c'est qu'en vérité, ceux qui bossent vraiment, c'est ceux qui ont du mal à bosser. Dès qu'il y a un effort, là, on peut dire t'as bossé. S'il n'y a pas d'effort, tu as fait des mitzvahs, il n'y a pas de problème. Mais on ne t'appellera pas Oved Elohim. L'appellation Oved Elohim, c'est une personne pour qui c'est un effort. Donc en vérité, ce qu'on peut retenir de ce cours, c'est que quand c'est difficile, c'est que c'est bien. Si on sent que c'est dur, que ça prend difficilement, ça veut dire qu'on avance. Si on sent que c'est plus difficile, c'est qu'il y a un problème.